Bonjour! Bonjour tout le monde! Salut les copains! Salut Jumpsuit! Ça roule? Très bien le lâcher solo sur la patrouille de France à Versailles. Bref, pardon. Bonjour, 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 bienvenue! Oui, bonjour! On va parler de politique quand même, parce qu'il se passe des dingues. On est le 24 juillet. Putain, on m'aurait dit. On m'aurait dit que le 24 juillet, j'allais parler de politique. J'aurais pas cru. Mais c'est cool. La flemme devient immense. Ah, j'avoue, moi, dans ma tête, je suis en vacances, hein. Moi, dans ma tête, je suis en mode. Vas-y, la politique. Vas-y, c'est bon. On va se faire chier l'année prochaine. Mais non. C'est pas le navion aujourd'hui. Alors, pas de Flight Simulator cet après-midi. Par contre, ce soir, je fais un stream Flight Simulator. On va faire du planeur avec Stardust. Vincent de la chaîne Stardust. Voilà, on a prévu de se faire un petit stream à deux pour aller voler je sais pas où dans les Alpes. Donc voilà. Politique en sirotant une petite binouze sous le soleil. Et bah, profite bien du soleil. Ici, tiens, c'est mon mug Fondation pour la recherche médicale. Partenaire de ma chaîne, hein, merci les amis. Moi, ici, c'est pas binouze au soleil, parce que de toute façon, je suis un gamer, donc je vis les rideaux fermés. Je n'aime pas la lumière du jour, ça pique. J'aime pas le monde extérieur. Les graphismes sont pas mal, mais le gameplay est dégueulasse. Je préfère les jeux vidéo. Donc, petit café, peinard. Dommage que la programmation n'est pas dans l'autre sens, j'aurais préféré être là pour voler. Oh, ça va, ça va, ça va. On volera ce soir. Ce soir, Flight Simulator. Ce soir, on parle pas de politique, promis. Il reste encore un peu de temps pour battre le record des Belges sur l'intérim sans gouvernement. Ah ouais, ils ont tenu 2 ans, eux. Oh non, mais les Belges, c'est les meilleurs. À quelle heure ce soir? Je sais pas encore, ça dépend de Vincent. Il doit se faire livrer un écran, enfin bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce sera a priori ce soir. Sauf s'il y a un bug, je vous tiens au courant. C'est qui, Lucie Castet? Est-ce que tu peux la présenter? Alors, on a appris hier que le nouveau Front Populaire avait réussi à trouver un nom de Premier ministre, de candidat au poste de Premier ministre, qui rassemble l'ensemble des composantes du nouveau Front Populaire. On se souvient qu'ils avaient eu des difficultés pendant 15 jours. Le nom de la présidente de la région de La Réunion, Huguette Bello, qui est communiste mais proche de la France insoumise, avait bloqué du côté du PS. Et le nom de Laurence Tubiana, qui n'est pas élue, qui est une diplomate. Plutôt proche du PS, avait bloqué du côté de la France insoumise pour des raisons tout à fait légitimes de stratégie. On se demandait tous si le NFP allait finir par réussir à se mettre d'accord sur un nom, et la nouvelle est tombée hier, donc oui, le NFP s'est mis d'accord sur un nom de candidate au poste de Premier ministre, il s'agit de Lucie Castet. Lucie Castet est une haute fonctionnaire, elle est énarque, donc elle a fait l'ENA. Elle est haute fonctionnaire, elle a été conseillère au cabinet de la maire de Paris, Anne Hidalgo, chargée des finances. Puis elle est devenue directrice des finances de la ville de Paris, donc du côté de l'administration. Lucie Castet est également connue pour un autre engagement associatif, citoyen, à gauche, qui s'appelle le collectif Nos Services Publics, qu'elle a cofondé et dont elle est coporte-parole. C'est un collectif qui rassemble plein de monde, qui cherche à défendre les services publics et leur financement. C'est donc une experte en finances publiques, Lucie Castet, puisqu'elle travaille dans les finances publiques des collectivités locales avec la ville de Paris, mais aussi dans son engagement citoyen, elle a une spécialité dans la défense des services publics, de leur financement, de l'argent, tout ça, tout ça. Lucie Castet n'a pas d'appartenance politique connue. Elle n'est pas membre d'un parti, membre du Nouveau Front Populaire. Lucie Castet n'est pas élue. Elle n'a pas fait de campagne, de choses comme ça. Elle est une haute fonctionnaire. Elle est une haute fonctionnaire. Lucie Castet a l'avantage pour le NFP d'être une inconnue. C'est exactement le scénario dont je vous parlais après les législatives. Avant qu'on parle d'Huguette Bello et de Laurence Tubiana, moi je vous disais, je pense que le NFP va se mettre d'accord sur une personnalité de la société civile. C'est ça ce qu'on appelle une personnalité de la société civile, c'est quelqu'un qui n'est pas élu, qui ne fait pas partie du champ politique. Partisans, etc. Donc on avait parlé par exemple de Sophie Binet, on avait parlé de Laurent Berger, qui sont des syndicalistes, donc ça fait partie un peu de la société civile. Hop. Et finalement, donc c'est Lucie Castet qui remporte la palme. C'est Lucie Castet qui remporte la palme et qui est donc la candidate investie. Enfin, investie, vous savez comment ça marche, hein, y a pas d'investiture, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas machin. C'est juste la personne que le NFP, le Nouveau Front Populaire, souhaite voir nommée à Matignon. Elle serait donc hypothétiquement à la tête d'un gouvernement qui rassemblerait les différentes composantes du Nouveau Front Populaire. Il y aurait des députés, il y aurait des ministres, pardon, de la France Insoumise, des ministres socialistes, des ministres communistes, des ministres écolos. Toutes les tendances seraient représentées. Lucie Castet, c'est la DAF de Paris si on se rapporte au monde des entreprises par rapport au public. Oui. Oui, c'est la directrice administrative et financière. Oui, si tu veux. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche dans les collectivités. Il y a la direction de l'administration est dirigée par le secrétariat général, le secrétaire général de la ville de Paris, qui est une femme d'ailleurs, je crois. Elle, c'est un peu l'équivalent. Alors, hier, j'ai dit, c'est un peu l'équivalent de la ministre du budget de la ville de Paris. En fait, c'est pas vrai. Le ministre du budget de la ville de Paris, c'est le maire adjoint chargé des finances. C'est lui le politique. Elle n'est pas la politique. Elle est du côté de l'administration. Elle pilote l'administration, mais elle fixe pas le cap. Le cap est fixé par le politique. Ouais, c'est Marie Villette, c'est ça, c'est Marie Villette, ouais. Un cap clair. Ah bah un cap clair, hein. Il y a une inversion du rapport de force. Elle est en tête à gauche, voici ses conditions. L'argument qu'elle a doublé la dette de Paris que l'on entend de la part de ses détracteurs est fondé. Alors, en tant que directrice administrative, enfin en tant que directrice des finances de la ville de Paris, Lucie Castet n'est pas responsable des décisions qui sont prises d'orientation du budget parisien. Ça, c'est le politique qui prend ses décisions. Les responsables de l'endettement de la ville de Paris, ce sont les élus parisiens qui dirigent Paris. Anne Hidalgo, la maire de Paris, et son équipe. Elle n'est qu'une exécutante. Elle est dans l'administration. Et par ailleurs, l'endettement de la ville de Paris, on peut en parler pendant des heures, ça ne fonctionne pas de la même manière que l'endettement d'une entreprise, ça ne fonctionne pas de la même manière que l'État. D'ailleurs, il y a plus de règles qui encadrent l'endettement des collectivités locales que de règles qui encadrent l'endettement de l'État. Et la ville de Paris a une bonne santé financière, ça a été revalidé à plusieurs reprises par des instituts de notation internationaux. La ville de Paris n'est pas dans la merde, loin de là, elle a beaucoup d'argent, elle en fait rentrer beaucoup, elle s'est endettée pour faire des investissements comme la loi lui autorise. Et on peut discuter pendant des heures de l'endettement des collectivités locales, c'est un sujet passionnant, mais c'est pas elle qui en est directement la responsable. Mais ça, c'est un truc qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est important. Les responsables sont les politiques. C'est eux qui sont élus pour diriger, c'est eux qui prennent les décisions, et c'est eux qui sont comptables des décisions. Les gens de l'administration, ils obéissent. Prenez par exemple l'armée. C'est le chef de l'État, chef des armées, qui décide de l'engagement des troupes sur le terrain. Les généraux de l'armée, ils obéissent et ils appliquent. Et ils mettent en œuvre des plans qu'ils prévoient, etc. machin, mais la décision, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur responsabilité. Et ben c'est pareil dans le reste de la politique. Tous les droitards qui chouinent sur X sont de mauvaise foi. Oui. Et ce serait de mauvaise foi que de dire qu'il n'y a que des droitards, que des droitards qui chouinent sur X. Et donc les responsables sont les électeurs dans le fond. Les électeurs prennent des décisions souveraines en tant qu'électeurs d'élire des personnes qui vont ensuite mener les politiques et en être eux responsables politiquement. Donc voilà, donc Lucie Castet a été désignée hier par le Nouveau Front Populaire. Hier soir, il y a eu une interview du chef de l'État que j'ai regardée. Interview du chef de l'État à l'occasion des Jeux Olympiques, en gros. Mais évidemment, les journalistes Thomas Soto et Anne-Sophie Lapix ont quand même posé des questions politiques et ils ont bien raison parce qu'il y a quand même des questions qui se posent. Et on a vu un Emmanuel Macron qui continue à faire ce qu'il faisait avant. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de changement. Macron fait du macronisme. Il appelle à une trêve politique pendant les Jeux Olympiques en maintenant le gouvernement démissionnaire en place pour pas qu'il y ait de chamboulement politique pendant les Jeux. Alors c'est très bizarre quand même d'appeler à une trêve politique après avoir soi-même mis le désordre en dissolvant l'Assemblée nationale. Il s'est rejustifié de sa dissolution de l'Assemblée nationale en disant j'ai dissous l'Assemblée nationale parce que de toutes les façons, à l'automne, il y aurait eu une motion de censure sur le budget. Ce à quoi moi je réponds, Très bien. Dont acte. Il faut accepter ça. Enfin, je veux dire, je continue à dire que la décision de dissolution de Macron est une connerie. Il dit, ouais, mais il y aurait eu une motion de censure, dans toutes les manières, j'aurais dû dissoudre. Et moi, ce que je réponds à ça, c'est, ben justement, attends ce moment-là pour dissoudre. Dissoudre une Assemblée nationale après l'adoption d'une motion de censure, c'est logique. C'est cohérent. C'est pas aberrant. Il n'y a plus de majorité à l'Assemblée, c'est le bordel, on en revient au peuple qui doit élire une nouvelle Assemblée. Ça se défend. Dissoudre une Assemblée nationale après une élection européenne où l'extrême droite est arrivée en tête, c'est une autre histoire. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il y a, il y a plusieurs types de dissolution. Il n'y a pas la dissolution, il y a des dissolutions. Il y a des contextes politiques et des comportements d'acteurs spécifiques à chaque fois. Comme le 49-3, il y a des 49-3. Ça dépend comment c'est fait, pourquoi, à quel moment, par qui, dans quel contexte, etc. Et là, la dissolution, moi je considère que c'est une connerie. Qu'on est passé à deux doigts d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Heureusement, il y a eu un front républicain. Et Emmanuel Macron, bien heureux, se revendique maintenant de ce front républicain. En disant, personne n'a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui est vrai. Ce à quoi on pourrait lui rétorquer, ouais, mais je te rappelle qu'Elisabeth Borne non plus, elle n'avait pas la majorité absolue, ça t'a pas empêché de la nommer première ministre. Voilà. Et il dit, il faut que les acteurs du Front républicain, donc NFP plus macroniste plus LR, travaillent ensemble. Et il faut que tous ces gens-là travaillent ensemble pour trouver des majorités. Emmanuel Macron semble indiquer qu'il nommera un Premier ministre à condition que ce Premier ministre ait un vote de confiance à l'Assemblée. Ce qui est quand même gonflé, parce que, encore une fois, ni Elisabeth Borne ni Gabriel Attal n'ont sollicité de vote de confiance. À l'époque, ça n'avait pas l'air de poser de problème à Emmanuel Macron. Bref, Macron continue à faire du macronisme. La question se pose de savoir quel est son pouvoir là-dedans. Bah, en réalité, il en a un de pouvoir. Hein. Il en a un de pouvoir, hein, c'est de nommer le Premier ministre. Sous-entendu, il peut aussi choisir de ne pas nommer de Premier ministre. Sous-entendu, il peut choisir de nommer un autre Premier ministre. Ben voilà. Peut-être que Macron va essayer de jouer des coups comme ça. Démissionner, oui, tu as raison, il y a aussi la possibilité de démissionner. Mais d'une part, la démission du président de la République ne résoudrait pas le problème qu'on a aujourd'hui, puisque le problème qu'on a aujourd'hui est un problème parlementaire, pas présidentiel. D'autre part, Emmanuel Macron a évacué cette idée-là. Il ne souhaite pas démissionner de son poste de président de la République. Il a déclaré, j'ai été élu en 2022, j'appliquerai mon mandat jusqu'au bout. Ce à quoi j'aurais envie de lui répondre. Très bien, c'est une bonne idée. Enfin, c'est cohérent, je veux dire, politiquement, c'est pas absurde. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir continué avec la majorité relative que vous aviez déjà? Celle d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal? Finis ton mandat, mec. T'es pas le premier président de la République à se prendre une tôle aux élections européennes, hein? C'est pas grave. On dissout pas après une tôle aux élections européennes d'habitude. S'il démissionne et qu'un nouveau président est élu, peut-il dissoudre l'Assemblée ou doit-il attendre un délai d'un an? Il doit attendre le délai d'un an. En cas de démission, y a-t-il de nouvelles élections législatives derrière? Non. Non, 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 non. Sauf dissolution à l'expiration du délai d'un an après la dissolution précédente. Est-ce qu'il pourrait ne jamais nommer de Premier ministre? Je réfléchis parce qu'en réalité, enfin, oui, techniquement, il pourrait ne jamais voter, ne nommer de Premier ministre, mais de toutes les manières, il faudra un budget à l'automne. Il va falloir un budget. Donc il y a un moment, Premier ministre, pas Premier ministre, gouvernement démissionnaire ou pas démissionnaire, il y a quand même y avoir des décisions qui devront être prises, il y a quand même un projet de loi de finances qui doit être déposé et défendu par un gouvernement. Donc, combien de temps un gouvernement peut rester démissionnaire? Il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps. Donc au pire du pire, ça durera un an, puisqu'il y aura une nouvelle, enfin, il y aurait, si d'aventure le blocage continuait pendant un an, il y aurait a priori une nouvelle dissolution dans un an. Et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'on va refaire des streams pour en discuter à ce moment-là. Si ça se trouve, les Français vont voter exactement la même chose, on va se retrouver dans la même situation, on n'aura pas avancé. Tout ça pour ça. S'il y a une motion de censure contre Attal. Alors techniquement, il ne peut pas y avoir de motion de censure contre un gouvernement démissionnaire. En échange de quoi un gouvernement démissionnaire ne peut pas gouverner au sens strict du terme, enfin non, au sens politique du terme plutôt, c'est-à-dire engager des projets de loi, des grandes réformes, des transformations, des choses comme ça. Donc c'est un gouvernement quasi fantôme, quoi. Donc, un gouvernement démissionnaire peut signer des décrets, ouais. Ouais. Un gouvernement démissionnaire peut signer des décrets, bah oui, le décret, c'est l'acte du gouvernement, l'acte réglementaire du gouvernement qui permet d'appliquer les lois. Merci Radinus pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup. Ils font quoi au bureau du coup? Alors, si tu parles du bureau de l'Assemblée nationale, ils font pas grand-chose. Là aussi, le nouveau Front populaire est parvenu à obtenir une majorité des postes au bureau de l'Assemblée nationale. Poste du bureau de l'Assemblée nationale, il y a le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les secrétaires de l'Assemblée nationale, et je crois qu'on rajoute les trois questeurs. Et c'est tout. Ouais, il y a peut-être le rapporteur général du budget. Il y a peut-être Courson qui va siéger. Et bref, au sein de ce truc-là, le NFP a une majorité, donc la présidente Yaël Braun-Pivet se retrouve en cohabitation au sein de son propre bureau de l'Assemblée nationale. En réalité, le bureau de l'Assemblée nationale ne dirige pas la France. Voilà, le bureau de l'Assemblée nationale dirige l'Assemblée nationale. Donc, ils peuvent juger de la recevabilité financière des propositions de loi. Bon, tant mieux pour le NFP, ils pourront faire passer plus de propositions de loi. Ils peuvent décider en votant sur les sanctions les plus importantes contre un député. C'est la belle affaire, mais enfin c'est. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des sanctions contre des députés, c'est pas monnaie courante non plus. Ils dirigent l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ils participent, ouais, ils participent à la direction et à la décision sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui est important. Ça, pour le coup, c'est important. Savoir de quoi est-ce qu'on discute, à quelle date. C'est très 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 politique, l'agenda de l'Assemblée nationale. Mais je vous rappelle que l'agenda de l'Assemblée nationale, il est partagé entre l'Assemblée nationale, donc son bureau, et le gouvernement, qui lui aussi a des créneaux prévus où c'est le gouvernement qui décide de quoi on discute. Même avec la bordélisation de l'Assemblée nationale, il n'y a pas tant de sanctions que ça? Non. Non, non. Non, non, les sanctions graves, il y avait de l'ogus, il y avait... Ah, je veux dire, on se souvient, il y a eu quelques sanctions graves, mais c'est très peu. Il y en avait un qui avait insulté un ministre aussi. C'est genre ses deux parents, quoi. De Fournasse, ouais. Dans son interview d'hier soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait qu'il ne nommerait pas de Premier ministre avant la fin des Jeux Olympiques. Donc, ça nous renvoie à mi-août. Il y aura peut-être une nomination de Premier ministre à la mi-août. Alors, j'ai pas bien compris si c'était la fin des Jeux Olympiques ou des Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce qu'on va disrespecter les handicapés en mettant fin à la trêve politique pendant les Jeux Paralympiques? Ce serait moche quand même. Il a dit que ce serait après. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, hein. Les vacances de Jean en PLS. Ah putain, il est en train de bordéliser mes vacances, l'enfoiré. Aucun respect, hein. Aucun respect pour les institutions dans ce pays. Donc, dans ce cas, pas de gouvernement pendant 2 mois. Ah non, pendant 1 mois. Là, on est le 24 août. Et ce serait à la mi-août, c'est ça? Les Paralympiques finissent en septembre. Ah merde! C'est un peu tard. Le 6 septembre, ouais. La Constitution prévoit qu'il ne peut pas y avoir d'actualité politique nationale avant la reprise de l'émission Baxit. Donc, va falloir jongler aussi avec cette donnée-là. C'est que si tu veux donner de l'élan à une politique publique que tu mènes, quelle qu'elle soit, t'as quand même intérêt à attendre d'être interviewé sur Baxit. C'est pas moi qui fais les règles, hein. Est-ce que Macron n'est pas sur une pente autoritaire? Je ne respecte pas les institutions, que le résultat ne m'arrange pas. Oui, on peut voir ça comme ça. Après, ce serait ni le premier ni le dernier, hein. Ils font de la politique, ces gens-là. Faire de la politique, ça veut dire jouer avec les règles qu'on a. Tu sais, si la proposition de loi de la France Insoumise sur l'abrogation de la réforme des retraites est compatible avec l'article 40, il prévoit d'augmenter les taxes sur le tabac. C'est pas une difficulté, ça, la recevabilité financière de l'abrogation de la réforme des retraites, parce que abroger la réforme des retraites, ça veut dire revenir à la réforme précédente, aux règles antérieures, donc les règles de la réforme de Marisol Touraine de 2014, qui étaient financées. Donc c'est pas aberrant d'un point de vue des finances publiques que de. C'est juste un financement différent. Mais par contre, il faut financer, effectivement. Après, tu peux gager sur le tabac comme tout le monde le fait d'habitude, mais on peut appeler ça un coup d'État, tu trouves pas? Non, c'est pas un coup d'État. Arrêtez d'utiliser des grands mots comme ça. Non, c'est pas un coup d'État. C'est une situation d'instabilité politique parlementaire. Classique. Plein de pays dans le monde connaissent ça. Nous, on n'est pas habitués parce qu'on a une 5ème République turbo-monarchique avec un président de la République qui décide de tout, etc. Donc on est plutôt habitué à avoir un pouvoir qui roule. Là, on est juste en train de vivre un truc normal et habituel. Il y a des bisbilles au Parlement pour trouver des majorités, soit de coalition, soit de projet, pour nommer un gouvernement stable. Classique, tout va bien. Plein de pays dans le monde refusent le résultat des élections. Alors ça, c'est pareil. Le nouveau Front populaire prétend avoir remporté les élections législatives. C'est bien leur droit. Et ils ont ni raison ni tort, c'est un point de vue qu'ils ont sur l'élection. Au demeurant, aurait-il eu le même point de vue si d'aventure le RN avait une majorité relative avec 193 députés? On peut en douter. Mais Emmanuel Macron, lui, a une autre lecture des élections. Il a ni raison ni tort, c'est juste une lecture qui l'arrange davantage. C'est normal. Est-ce que les parlementaires qui parlementent pour faire les lois et la politique, c'est la base de la politique? Enfin, en démocratie représentative, classique, occidentale, moderne. On n'a pas eu la présidence de l'Assemblée nationale, mais est-ce que c'est un poste important? Oui, c'est important, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est un poste important. Mais encore une fois, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron se prend lui-même les pieds dans son propre argumentaire. C'est ce que je vous expliquais. Quand il dit le nouveau Front populaire n'a pas remporté l'élection, parce qu'il n'a pas la majorité absolue. Eh ben oui, je suis d'accord. Mais en même temps, encore une fois, lui non plus, il n'avait pas la majorité absolue en 2022. Il avait une majorité relative. Alors, ok, on peut. Mais c'est une argumentation, c'est-à-dire on va pas être d'accord. Mais lui, il va me sortir l'argument de dire, oui, enfin, je suis désolé, une majorité absolue avec plus de 240 sièges, une majorité relative avec plus de 240 sièges, c'est quand même un peu plus confortable, même si c'est inconfortable, qu'une majorité relative avec 193 sièges. C'est vrai. Peut en discuter. C'est pour ça que moi. Mais moi, je suis biaisé, comme tout le monde, et c'est normal. J'ai aussi mon point de vue. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron devrait nommer Lucie Castet à Matignon, charge à elle de se démerder pour aller trouver des majorités. Et charge aux députés macronistes de faire leur boulot de député. De faire monter les enchères, de déposer des amendements. de menacer de ne pas soutenir le budget. De la politique classique en régime parlementaire. Alors, est-ce qu'ils réussiront à trouver des compromis? Je sais pas. J'en sais rien. On est d'accord que l'erreur de Macron, c'est plus le timing que la dissolution. On peut en discuter. Oui, le timing de la dissolution, moi je trouve que c'était une connerie. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû dissoudre après que Attal ait été renversé par une motion de censure à l'automne. Si d'aventure ça arrivait. Même pas sûr. Dans quel cas, tu dissous l'Assemblée nationale après une censure, c'est normal. C'est cohérent. Tu peux pas en vouloir à un président de constater qu'il y a un problème à l'Assemblée nationale puisqu'une censure vient d'être adoptée et de dissoudre. C'est ce qui s'était passé en 62. Motion de censure adoptée égale dissolution. Très bien. C'est cohérent, c'est dans l'esprit des institutions. On avance, on fait des élections. Il refuse à tout prix une cohabitation. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas intérêt. Évidemment. Il veut forcer le NFP à trouver des compromis avec les macronistes. Et c'est pour ça que, en fait, moi je comprends les gens du NFP qui disent on ne veut pas faire de coalition avec les macronistes. Je comprends. C'est normal, t'as pas envie de gréver ton projet, t'as pas envie d'annoncer que tu vas réduire la voilure sur ce que tu as promis à tes électeurs, etc. Je rappelle quand même que être élu sur un programme, puis négocier ce programme pour l'appliquer, ça s'appelle une démocratie parlementaire. Et c'est exactement ce que propose la France insoumise avec la 6ème République. C'est comme ça que ça marche une démocratie parlementaire. Tu négocies ton programme après l'élection. Démocratie majoritaire, tu négocies ton programme avant l'élection. Pas grave, peu importe. On a tous nos contradictions, c'est pas un sujet. Moi, ce que je demande, c'est, ok, admettons pas de coalition, donc cohabitation. Lucie Castet est première ministre, elle dépose des projets de loi pour gouverner à l'Assemblée nationale, et là, les députés macronistes déposent des amendements. Et il y a des débats sur les amendements, on en discute. Et si les amendements sont adoptés, est-ce qu'on rejette la loi pour autant ou pas? Je sais pas, moi. Le gouvernement de Lucie Castet annonce l'augmentation du SMIC à 1600 euros, et les macronistes disent, ok, très bien, par contre, on dépose un amendement pour que cette augmentation soit progressive pendant un an et non pas immédiate et brutale. Qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, on dit non. Bon, on dit non, mais ils réussissent quand même à l'adopter leur amendement. Bon, bah on se retrouve avec une loi qui va dans le sens qu'on voulait, mais qui va pas aussi vite qu'on voulait. Bon, on fait quoi? Bon, bah on l'accepte quand même, parce que c'est mieux que rien. On prend ce qu'il y a à prendre. Mais c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que là, ce que je vous décris, c'est un scénario contraint et forcé, où tu n'as pas le choix, puisque l'amendement a été adopté. On t'a pas demandé ton avis. Enfin, si, on t'a demandé ton avis, tu l'as défendu dans l'hémicycle, t'as perdu. T'as perdu le vote. L'amendement a été adopté contre l'avis du gouvernement. Avis du rapporteur, avis du gouvernement, Nyon, qui avait dit avis défavorable, l'amendement est adopté. Bon, bah, tu fais avec, hein. Donc c'est ça, donc du coup ce n'est pas une coalition, tu ne te coalises pas avec l'adversaire, mais tu fais avec ce que l'Assemblée nationale décide dans le vote des amendements. Parce que tu n'as pas le choix. Ce qui te permet de retourner devant tes électeurs en leur disant, j'ai pas voulu ces amendements, j'étais contre, ils ont été adoptés, j'ai pas eu le choix, parce que c'est la loi, mais par contre je ne me suis pas sali dans une compromission avec l'adversaire. Très bien. C'est un discours qui est entendable. Tu oublies aussi la place du RN qui font plus de votes et ont beaucoup de place au Parlement. Alors, la place du RN aussi va être intéressante dans ce scénario-là. Attention, je suis toujours en train de faire un scénario fictif où Lucie Castet est nommée Première ministre. Oui, le Rassemblement national va jouer un rôle. On l'a appris dès avant-hier quand Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, a annoncé qu'elle déposait un projet de loi une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites et que le RN a annoncé dans la foulée qu'il la voterait. Donc le NFP va peut-être bénéficier des votes du RN pour pouvoir appliquer une partie de son programme. Juste la partie sur les retraites. Pas sûr que le RN ait très envie d'appliquer le reste du programme du NFP. Donc ça va peut-être jouer, effectivement. Est-ce que certains ONFP sont prêts à accepter ça? Alors, le principe d'un vote à l'Assemblée, c'est qu'un vote est libre. Tu peux pas accepter ou refuser le vote de quelqu'un. Si ton adversaire vote pour toi, tu peux pas l'empêcher de le faire. C'est exactement ce qui s'est passé pour les vice-présidences de Daniel Obono et de Clémence Guettet, qui ont été élues avec des voix du Rassemblement National. Mais elles les ont pas sollicitées, ces voix. Elles leur ont pas demandé. Elles ont certainement pas fait une cohabitation. Une coalition, pardon, avec le RN. Ah non, c'est pas Obono, pardon, 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 c'est pas Daniel Obono, je me suis trompé. Pourquoi j'ai dit Obono? Ah non, c'est Abo Mongoli. Ah oui, c'est Abo Mongoli. Désolé, j'ai confondu. T'en penses quoi de Lucie Castet, toi? Bah écoute, j'ai regardé son interview. J'ai regardé son interview. Sur France Inter. Je l'ai trouvée très hésitante. Je l'ai trouvée mal à l'aise dans l'exercice. Sauf sur toute la partie qu'elle connaît par cœur sur la défense des services publics. Mais sur la partie de politique politicienne pure au début sur sa nomination, etc. Je trouvais qu'elle manquait d'assurance. Après, c'est pas grave, c'est aussi ça la société civile, hein. Elle lisait ses notes beaucoup, ouais, elle lisait beaucoup ses notes. Bon, c'est aussi ça la société civile, hein. Ce sont des personnes moins rompues à l'exercice que d'autres. Et au demeurant, on peut aussi apprécier ça. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon, excusez-moi. Donc oui, donc je disais, pardon. Je disais. Qu'avoir une personnalité de la société civile, c'est aussi embrasser cette contradiction d'avoir une personne qui est moins habituée aux matinales de France Inter que des politiques professionnelles qui font ça depuis 30 ans. Mais rappelez-vous, c'était ce qu'on disait des macronistes qui ont été élus en 2017, là, les députés macronistes néophytes. Tout le monde disait, c'est des peintres, ils sont nuls, c'est des cons, ils sont mal à l'aise devant une caméra, devant un micro, etc. Bah, ouais. Mais en même temps. C'est peut-être d'un certain point de vue préférable d'avoir des amateurs, comme disait Emmanuel Macron, soyez fiers d'être des amateurs, que d'avoir des vieux briscards du Parti socialiste qui sont députés maires depuis 30 ans. Alors c'est sûr, ils parlent bien dans les micros, eux. Ah bah ouais. Bah. Ça n'existe plus, député maire. Bah, je sais, je me suis battu pour que ça n'existe plus. J'avais monté un collectif avec des copains, un collectif militant qui s'appelait Cumul Info Service. On avait fait ça en 2012. Parce que, en fait, les députés socialistes qui avaient été investis par le Parti Socialiste à la. Aux législatives après l'élection de François Hollande, il s'était engagé à mettre fin aux situations de cumul des mandats. Si d'aventure ils étaient élus députés et qu'ils sont maires, par exemple, il s'était engagé avant l'élection à dire si je suis élu député, alors je cesserai mes fonctions de maire pour appliquer à moi-même ce qu'on porte dans le programme politique, qui est l'abrogation de la du cumul des mandats. Et donc il y a eu l'élection, donc François Hollande est élu en mai, et en juin il y a les élections législatives. Et là, avec des potes, on constate qu'il y a un paquet de vieux briscards du PS qui sont candidats et qui commencent à expliquer doucement qu'ils sont pas chauds pour arrêter de cumuler les mandats. Donc nous on fait hop 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 la douille, on la voit arriver gros comme ça. Et donc on s'est réunis plusieurs fois chez moi à l'époque avec des pizzas et de la bière pour élaborer un plan. On a créé un site internet qui s'appelait Cumul Info Service, qui était un site miroir de Tabac Info Service. On avait fait exactement les mêmes choses que Tabac Info Service et on avait créé un programme qui s'appelait Arrêtez de cumuler en 90 jours, c'est possible. C'était une copie du programme de Tabac Info Service qui existe toujours d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Arrêtez de fumer en 90 jours, c'est possible. Et donc on avait fait un site internet entier avec des conseils d'anciens cumuleurs. Comme sur Tabac Info Service, t'as des anciens fumeurs qui donnent des conseils. Et ben nous, on avait fait des conseils d'anciens cumuleurs. On avait interviewé des députés qui avaient arrêté de cumuler des mandats. Donc ils s'étaient effectivement appliqués eux-mêmes la règle, et on les avait filmés en train de témoigner face cam, en mode ma vie est beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de cumuler, je me sens mieux. Je passe plus de temps avec mes enfants, je suis plus à ma tâche de député, etc. Et donc on avait fait des témoignages comme ça d'anciens députés, d'anciens cumuleurs, qui donnaient des conseils aux cumuleurs actuels en disant arrêtez de cumuler, bande de cons. On avait interviewé des constitutionnalistes aussi, on avait fait une interview à la rage de mon ancien professeur Bastien François. Dans le parc derrière le Sénat, là, au jardin du Luxembourg, en plein été, qui donnait des conseils pour arrêter de cumuler. Et on avait créé un truc avec un pote développeur. À l'époque, on était en 2012, c'était encore un peu difficile de faire ça. Aujourd'hui, c'est plus accessible. On avait créé une carte de France où tu pouvais cliquer sur ta circonscription. Tu pouvais avoir l'information si oui ou non tu avais un député qui cumule. Et si ton député était un cumuleur, alors tu pouvais lui envoyer automatiquement un mail. Pour l'inciter à arrêter de cumuler. Et donc, on avait organisé du spam comme ça intensif de boîtes mail de députés. Et. Ah, c'était du name and shame. Ah ouais, complètement, complètement. Et ça avait bien marché. En fait, ça avait bien marché parce que d'une part, on avait eu un succès national parce qu'on avait parlé de notre site dans la matinale de France Inter. Sur Télématin, sur France 2 aussi, ils en avaient parlé. Donc ça avait bien marché. Dans les journaux aussi, on avait eu des articles dans Libé, etc. C'était plutôt pas mal pour un truc sorti nulle part. Hein. On était une bande de connards, on n'était même pas un collectif constitué, on n'était pas une assoce. Hein. On était des anciens militants d'Animafac, trop vieux pour être à Animafac, parce qu'on avait passé l'âge, mais on voulait rester ensemble et faire des conneries. Donc on avait créé un collectif informel qui s'appelait On a failli le faire. Et c'était en hommage à toutes les idées à la con, comme celle-ci, qu'on a eues en buvant une bière, et où on se disait, viens, il faut trop qu'on le fasse. Et finalement, on le faisait jamais. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est appelé On a failli le faire, parce qu'il y a plein de projets comme ça qu'on n'a jamais fait, alors que c'était vachement bien sur le moment, mais flemme, pas l'énergie, pas les compétences. Bref, donc je reviens à Cumul Info Service, ça avait fonctionné. Et ça avait fonctionné parce qu'il y a aussi plein de députés qui s'étaient pris des mails, des tweets, des gens qui commençaient à mettre la pression sur les députés en leur disant arrête de cumuler, arrête de cumuler. Et du coup, les députés, bah, ils étaient obligés de se défendre dans les médias parce que les journalistes, du coup, leur posaient la question. Alors qu'avant, personne ne leur posait la question. Mais là, du coup, il y avait des journalistes qui faisaient leur taf, qui avaient vu le truc monter et qui s'étaient dit bah, tiens, je vais lui poser la question dans la prochaine interview. Et du coup, ils posaient des questions. Et du coup, tu voyais des députés cumuleurs qui regardaient leur pompe, qui avaient du mal, qui bégayaient, qui avaient du mal à assumer. De continuer à cumuler les mandats, tu vois, alors qu'il s'était engagé à arrêter de le faire. Bref, tout ça pour dire que la loi d'interdiction du cumul des mandats a été votée 2 ans plus tard par les socialistes, et elle a de facto mis fin, à ce qui existait auparavant sur le cumul des mandats entre un mandat de parlementaire et un mandat exécutif local. Et de toute façon, notre site internet, il est mort un mois plus tard, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Ah si, il y avait un truc très drôle. C'était BFM TV. BFM TV, ils avaient parlé de notre site, de Tabac Info Service. Un mec qui avait fait une chronique. Et donc, qui présente le site et tout. Et le présentateur lui demande, mais qui est derrière cette initiative? Et le journaliste dit, eh bien, j'ai fait mes recherches, figurez-vous. Eh bien, il s'agit de Terra Nova. Le think tank Terra Nova est derrière le site Cumul Info Service et tout. Et nous, on était tous chez moi. Avec des pizzas et tout, on était sur BFM TV, et là on voit ça en direct, on est en mode quoi? D'où? D'où Terra Nova? C'est quoi le délire? Pourquoi il dit Terra Nova? On n'a rien à voir avec Terra Nova, on le détestait en plus, moi c'était lunaire. Je fais ok, super le journaliste. Et du coup, on a demandé à un pote de Terra Nova, en disant mais vous avez dit des trucs? Genre, vous avez pris la paternité du projet, bande d'enfoirés? Et ils nous ont dit, mais pas du tout, absolument pas. On a été contactés par des journalistes pour nous demander ce qu'on pensait du site, et on leur a dit qu'on trouvait ça vachement bien. C'est tout. Et du coup, il y a des journalistes, je sais pas comment ils ont transformé ça en. Ah bah, c'est Terra Nova qui est derrière. Ah, du journalisme de qualité, effectivement. On était un peu sur le cul sur ce coup-là, ouais. Mais bref, on a passé des semaines très rigolotes, on s'est bien marré, ça a bien fonctionné, on a réussi à foutre le bordel au Parti Socialiste, c'était le projet. Et ils ont voté la loi, et voilà, ciao, bye bye, le cumul des mandats. Donc tout ça pour vous dire que j'ai été un militant de la fin du cumul des mandats pendant longtemps, Et que. Et que je sais plus pourquoi on parlait de ça. Oui, si, non, si, 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 je vous parlais des députés débutants. Parce que du coup, en 2017, Emmanuel Macron a été élu président de la République et il a fait élire une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui étaient des députés, effectivement, pour beaucoup des néophytes. Des gens qui venaient du privé, des gens qui venaient de la société civile, des gens. Voilà, il y avait quelques anciens socialistes, il y avait quelques anciens UMP, il y en avait quelques-uns comme ça, mais la majorité, en fait, c'était des gens un peu inconnus au bataillon, des citoyens normaux, société civile, tout ça, qui se retrouvent bombardés députés à l'Assemblée nationale. Et du coup, autant moi j'étais pas content de la majorité macroniste, mais ça c'était mon problème perso, autant j'étais forcé de constater que ça fait du bien d'avoir une Assemblée nationale avec des visages qui changent un peu des vieux briscards de l'époque du cumul des mandats. Parce que le problème du cumul des mandats, c'est que ça verrouillait les postes. Et tu te retrouvais avec des députés qui étaient députés pendant des dizaines d'années, en plus d'être maire de leur ville, en plus d'être président de leur conseil départemental. Des gens qui verrouillaient tout, des Fabius, des à Montpellier c'était comment il s'appelait j'ai oublié. Ouais, des barons, ouais, c'est ça, des baronnies, c'est des espèces de baronnies locales. Fraîche, Georges Fraîche, voilà, Georges Fraîche. Ce genre de vieux mecs de la génération Mitterrand, tu vois, des espèces de vieux croulants, pas du tout en. Pas du tout connectés à leur époque, à la jeunesse, etc. Je dis pas que les macronistes l'étaient. Hein. Les macronistes, c'était quand même beaucoup du secteur privé, des entreprises, etc. Donc ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients en termes de représentativité. Mais en tout cas, j'étais bien content qu'on ait tourné la page de ces vieux briscards indéboulonnables, éternels. Ouais, Claude Bartolone, bien sûr. Santini, putain. Évidemment, il y avait le maire de Lyon, Gérard Collomb, bien sûr. Ah non, mais si on commence à faire la liste de la baronnie socialiste qui a squatté les travées de l'Assemblée nationale pendant beaucoup trop longtemps, on n'est pas fait, on n'a pas sorti, hein. Ah, je me souviens, j'avais eu une discussion lunaire avec un maire dont je tairai le nom, qui voulait absolument continuer à cumuler les mandats, et qui s'accrochait à ça, et qui me disait, mais Jean, tu te rends pas compte, moi les citoyens, ils m'arrêtent dans la rue et ils me demandent de cumuler les mandats. Les gens veulent que je cumule. Ils veulent que je les représente à l'Assemblée nationale. Mais ferme ta gueule. Personne dit ça. Vraiment. Non, mais le mec, il était habité. Il était habité d'une espèce de. Et vraiment, c'est le côté terrible des politiques professionnelles. Le problème des politiques professionnelles, c'est qu'ils se sentent indispensables. Ils sont convaincus d'être une nécessité absolue. Ils t'expliquent que abandonner leur mandat, c'est comme abandonner le terrain de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est trahir les gens, c'est être un salaud que de raccrocher les crampons et de passer la main à quelqu'un de plus jeune, quoi. J'ai vu des trucs, j'ai vu des députés, des candidats députés être investis par le Parti socialiste dans des circonscriptions, par des mecs qui fondaient en larmes en disant « si je ne suis pas député, je meurs ». Le territoire se dépérira, ce sera l'apocalypse et tout. Mais ferme ta gueule. T'es député depuis 20 ans, casse-toi, juste. Morale de l'histoire. Quand les socialistes ont perdu le pouvoir en 2017, il y a des vieux briscards du PS qui sont venus expliquer sur des plateaux télé que c'était à cause de la fin du cumul des mandats si on avait perdu. Hein? Si on avait gardé le cumul des mandats, eh ben, on serait plus près des territoires, on serait plus près des gens, on connaîtrait mieux leur volonté, on a créé des députés hors sol, et ben, c'est comme ça qu'on a perdu. Voilà. Il fallait qu'on continue à cumuler, comme ça on aurait gagné l'élection. Corbière et Garrido, en somme, qui ne souhaitent pas lâcher. Ah, c'est marrant, t'as fait une faute d'orthographe à Mélenchon, mais c'est pas grave. Serais-tu en faveur d'une limite du mandat pour les députés? Limite dans le temps? Ah ouais. Ouais, faudrait qu'on fasse une limite dans le temps. Ça ferait du bien. Jean Massier, en toute honnêteté, c'est de ta faute si l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Ah oui, je sais, je sais, je sais. Oui, c'est de ma faute si l'extrême droite est aux portes du pouvoir. C'est. La journaliste de CNews qui me l'a dit. C'est Miss Bolloré qui m'a dit que c'était de ma faute. Sonia Marouk. Bah oui, parce que je suis intolérant. Et l'intolérance, ça donne pas envie. Alors pour ceux qui n'ont pas la rêve, j'étais invité. Léa Salamé m'avait invité à participer à son émission du samedi soir qui s'appelle Quelle époque? Et je m'étais retrouvé en plateau avec le Festival des horreurs, hein, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on aime. Nolo, Barbier, Mabrouk, Apathy, De Chavannes, etc. Et du coup, Léa Salamé m'avait demandé pourquoi est-ce que je refusais d'inviter l'extrême droite dans mes émissions. Du coup, je lui avais expliqué. Enfin, j'avais répondu. Et pendant que je répondais, il y avait Mabrouk et Nolo qui sont déchaînés contre moi en disant que c'était de ma faute si l'extrême droite montait. C'est à cause de cette intolérance de la gauche que l'extrême droite monte. Pourquoi t'es allé te mettre dans cette sauce, Jean? Parce que j'ai commis l'erreur d'accepter une invitation à une émission que je n'avais jamais regardée avant. J'avais jamais vu qu'à l'époque, de toute façon, je regarde pas la télé, je connais pas la télé, vraiment. Hein. Je connais très très mal le lore de la télé. Et donc Léa m'a invité à son émission. Elle m'a rencontré avant l'émission, elle m'a croisé dans le couloir, elle m'a dit: Ah, t'es là, bah ça fait super plaisir, je suis content. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on invite le petit de Twitch. Merci Léa. Bah, je suis là. Et le plateau, ça avait été une purge. Et à la sortie du plateau, j'avais dit à Léa Salamé et à son producteur que fallait pas me réinviter. Non, en vrai, on s'était engueulé. Mais c'est pas grave. Merci à elle de m'avoir invité sur son émission. Je ne lui en veux absolument pas, elle a parfaitement raison. C'est mon problème à moi si l'émission ne convient pas. C'est pas le sien. T'as réussi à rester calme? Non. Non, je venais de me faire traiter de facho par Sonia Mabrouk, j'étais pas dans mon état normal. T'as l'extrait? Ah non, ça c'était hors caméra, c'était hors caméra. Ah non. Non, ce que je vous raconte, c'était hors caméra, après le plateau, en sortie de plateau. Quand Léa m'a dit, bah alors Jean, t'as pas l'air bien. Dit, bah ça t'étonne tant que ça? Non, c'était hors caméra. Avec Mabrouk et Nolo. Ah, avec Mabrouk et Nolo, c'était en plateau, ça, ouais. J'ai pas l'extrait. Je vous avoue, je me suis pas amusé à regarder ça. Attends.
La stratégie des diabolisations de Marine Le Pen, le front.
Prenez le train, allez.
La stratégie des diabolisations de Marine Le Pen, elle a été accompagnée par un système médiatique qui l'a accueillie partout, tout le temps. C'est aussi ça qui a
parce
rendu possible cette diabolisation.
Français,
oui, mais il y a un moment, le serpent se mord la queue. C'est-à-dire que c'est trop facile. C'est trop facile de justifier
en Belgique,
la cause par sa conséquence.
Et c'est vrai, en Belgique, ils ne reçoivent pas.
En Belgique, c'est interdit à la télé.
Et ça marche. Le front républicain, le bon vieux cordon sanitaire en Belgique, ça marche.
Wow,
ça
peut voir dans les flammes.
Non.
Prenez le train, allez.
En Belgique, elle peut se présenter à l'élection.
La diabolisation de l'extrême droite, on peut pas se satisfaire de la montée du racisme.
Vous faites plus pour la faire monter que nous en la recevant.
Non, c'est pas moi qui fais monter Marine Le Pen. Non, c'est pas moi.
Vous
ne pouvez pas me dire ça, Sonia Mabrouk.
Prenez l'exemple de M. Zemmour.
Attendez, j'ai tout le panel des médias traditionnels devant moi, vous ne pouvez pas me reprocher à moi de faire monter Marine Le Pen.
Faites-le en interview et allez-y.
C'est juste pas possible.
Allez-y.
On parle pas au même public. C'est un débat éditorial historique qui a traversé toutes les rédactions depuis tout le temps. La stratégie des diabolisations de Marine Le Pen, elle a été accompagnée par un système médiatique.
Oh, ça me fait mal de le regarder. Oh, c'est oh, pas un bon souvenir. Un V9. Ah, mais c'était littéralement ça. Il y avait Cécile Duflot à côté de moi. dans le taxi du retour, j'étais dans le bar, j'ai envoyé des textos à Cécile Dufour en disant toi aussi tu te sens mal, Mathieu. Mais grave, c'est horrible. On s'est fait bananer pendant 2 heures. Alors, c'était un cauchemar. C'était vraiment un cauchemar. Et alors en plus, encore une fois, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû regarder l'émission avant. Vraiment, j'y suis allé a cappella sans savoir, etc. J'aurais pas dû. Et Léa Salamé m'avait dit on fait une émission, on t'invite parce qu'on fait une émission spéciale un an de présidence, de réélection d'Emmanuel Macron. On fait le bilan de la première année du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc on fait une émission spéciale politique, donc on fait un plateau un peu plus politique que d'habitude. Et je t'invite, etc. Et donc moi, je m'étais préparé à aller à l'émission avec le bilan de Macron. Tu vois, j'étais en mode un an de réélection, j'avais lu le rapport de la Cour des comptes, j'avais lu le rapport du GIEC, j'avais lu le rapport d'Oxfam, j'avais préparé mes éléments, etc. Et en fait, on a parlé que de psychologie de Macron. Mais vraiment, ça a duré genre 40 minutes. On a parlé que de Emmanuel Macron, comment il est, comment il pense, comment il vit, et le rôle de son épouse dans tout ça. Vous pensez que c'est quoi et tout et... Bah vraiment, j'étais là avec mes chiffres de la Cour des comptes et tout, en mode, ah ouais. Ah, c'est pas le... D'accord. Non, c'est... Ok. Oh, non, on peut aussi faire ce bilan-là, si vous voulez. Hein. Oh, je suis pas habitué à la télé. Hein. Bah, vous savez, je... Non, j'aurais dû me préparer en lisant Voici, mais bon. La pauvre Cécile Duflo qui a essayé de ramener son rapport d'Oxfam genre à 2 reprises dans l'émission et à chaque fois elle se faisait couper la parole. Juste. Au fait, il y a 11 millions de pauvres. Ouais, non, mais attendez, parce qu'on parlait de... On parlait de l'immigration, là. C'était quand? Bah, c'était un an après la réélection de Macron, je te laisse calculer. T'as pas fait des chroniques sur France Inter? Si, j'ai fait des chroniques sur France Inter pendant la présidentielle. Alors, est-ce qu'ils les ont gardés? J'ai pas l'impression. Attends, je vais checker directement sur leur page. Ça remonte, hein. Je suis pas sûr qu'ils les aient gardés, hein. Non, et puis je crois que c'était pas filmé en plus. Non, sur YouTube, il n'y a rien. Attends. Il faut que je me souvienne déjà du nom de l'émission. Ah, ça s'appelait Au Like Citoyen. Au Like Citoyen, c'était le nom de ma chronique. Mais il n'y a pas de vidéo.
Alex Darmon, cette semaine, vous êtes intéressé à une application qui cherche...
Non, ça, c'était Alex Darmon qui m'a remplacé.
Au Like Citoyen, c'est avec vous, Alex Darmon.
Mmh. Toujours pas. Voilà.
C'est un visage, celui d'un homme de 44
ans. Ah non, celle-là, je l'avais enregistrée, c'est moi, c'est de la merde.
Pour intéresser les électeurs, les candidats les moins médiatisés ont la possibilité de miser sur les réseaux sociaux. Jean Massier, c'est l'objet de votre chronique ce soir, Au Like Citoyen. Le font-ils? Misent-ils sur les réseaux sociaux?
Eh ben, je suis allé regarder, Jérôme, et franchement, je dois dire que ça rame franchement pour les candidats les moins bien qualifiés. Dit. Bah oui, je prenais par exemple Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière. En fait, il y a que son compte Twitter qui est vraiment actif. Elle y distribue les bourres pifs contre le gouvernement et les autres candidats de la gauche. Mais sa page Facebook et son compte Instagram ne font rien d'autre que relayer mot à mot les tweets. Et en fait, c'est un vrai gâchis de stratégie numérique, malheureusement. Sa chaîne YouTube, c'est pas beaucoup mieux. Il y a que de très rares vidéos autoproduites où la candidate explique face caméra le programme qu'elle défend. Par exemple, celle-ci intitulée « Pourquoi je suis communiste révolutionnaire ?»
Je suis communiste parce que la course au profit et la propriété capitaliste nous condamnent. Elle nous condamne à l'exploitation, aux inégalités, aux crises. Elle nous condamne au dénuement d'une grande partie de la planète, aux tensions et aux rivalités internationales et aux guerres.
Voilà, toutes les vidéos se ressemblent, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de générique, elle dit même pas bonjour au début de ses vidéos. En vrai, si vous n'êtes pas franchement vous-même déjà communiste révolutionnaire, ça a très peu de chances de vous donner envie. Du côté de Jean Lassalle, c'est pas beaucoup mieux. J'ai quand même noté une direction artistique qui est assez propre, avec un site internet et un logo assez élégant. Les réseaux sociaux sont un peu mieux maîtrisés parce que chaque plateforme est utilisée correctement. Il est aussi présent sur YouTube, Jean Lassalle, et justement, il y a 2 jours, il a utilisé la plateforme vidéo pour mettre fin au suspense dont vous parlait Cyril Lacarrière tout à l'heure. Est-ce qu'il va poursuivre sa campagne présidentielle? Écoutez.
J'ai décidé de continuer ma campagne telle qu'elle a été engagée dans ce contexte totalement inimaginable, ne répondant à aucune de vos questions, de vos aspirations, avec un président qui a peur lui-même de son ombre.
Voilà, bon, sur la forme, en revanche, il n'y a rien qui va. La vidéo, elle est filmée avec un téléphone portable. Et voilà, genre, la salle est à contre-jour. L'image est floue, le son est dégueulasse. C'était dans un aéroport.
Il a une belle voix,
ça. Il a une très belle voix, je ne lui retire pas ça. Du côté de Philippe Poutou, c'est assez intéressant. La stratégie numérique du candidat du NPA a l'air de parfaitement assumer son côté à l'arrache, pour le coup. C'est fait avec trois bouts de scotch, avec la sueur des militants. Par exemple, sur la chaîne YouTube du NPA, on peut voir une émission en plateau d'une heure qui est intitulée L'anticapitaliste, deux fois par mois, je crois. Là aussi, techniquement, c'est à la ramasse, hein. L'image, elle est mal cadrée, le son, il marche une fois sur deux, on dirait une radio étudiante. Mais justement, ce côté do it yourself, ça passe assez bien avec le côté NPA, avec le côté mouvementiste du NPA, on sent une vraie volonté de bien faire.
Donc ces candidats ne peuvent pas compter sur leurs seuls réseaux sociaux pour grappiller des points.
Mais non, Jérôme, c'est certain. Et je vois même là, en fait, une immense ironie. Quand je suis allé farfouiller sur les comptes des réseaux sociaux et sur les chaînes YouTube de ces petits candidats, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que l'écrasante majorité de ce qu'ils partagent, ce sont les passages télé des candidats. Des heures et des heures de plateau télé rediffusé en intégralité par les candidats eux-mêmes. Vous vous rendez compte de l'ironie ? Avoir besoin des médias traditionnels pour alimenter ses propres réseaux sociaux, bah en fait, c'est un peu admettre qu'on n'a pas vraiment d'alternative à offrir.
C'est voilà. Voilà. Donc cette chronique que j'ai faite pendant la présidentielle 2022 qui s'appelait « Au like citoyen » dans l'émission du dimanche de je sais plus, sur France Inter, et j'ai arrêté après la présidentielle, parce que j'ai dit que je voulais pas continuer, donc ils m'ont remplacé par quelqu'un d'autre, mais je voulais pas, ça me prenait un temps fou pour 3 minutes de chronique. Moi je préfère faire des streams devant vous plutôt que des chroniques à la radio. Et puis parce que j'ai le temps de dire plus de trucs, de rentrer dans plus de complexité et tout. Enfin, bref, c'est un choix éditorial de ma part. Et j'avais fait des chroniques sur France 5 aussi, j'avais remplacé Patrick Cohen dans C'est à vous, dans l'émission C'est à vous, pendant le Festival de Cannes. Parce qu'en fait, pendant le Festival de Cannes, ils déportent le plateau de C'est à vous à Cannes et ils font une spéciale Cannes avec les chroniqueurs habituels, donc avec Patrick Cohen, avec la présentatrice habituelle, etc. Et du coup, le plateau à Paris pendant ce temps-là, bah, ils en profitent pour faire venir d'autres gens. Et du coup, ils m'avaient proposé de faire la chronique politique dans C'est à vous. Que j'ai faite pendant une semaine et c'était bien, mais le problème c'est en fait c'est pareil, ça me prenait une journée de travail pour 3 minutes de chronique devant un public de 67 ans en moyenne. Les téléspectateurs de C'est à vous, c'est 67 ans selon les chiffres de médiamétrie de l'époque. Bon, bah voilà, à la fin de la semaine, moi j'ai fait mon bilan, hein. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, je vous aime bien, mais j'ai du travail, je peux pas continuer, c'est la fin des vacances, là il faut que je retourne streamer en fait. Ah, il y a pas de mal à avoir 67 ans, c'est juste que moi je choisis le public auquel j'ai envie de m'adresser. Je vais retourner parler à vos petits-enfants. Ouais, oui, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est ce que je vous dis à chaque fois. Moi, je n'ai pas de critique fondamentale sur la télévision. Ces gens-là font très bien ce qu'ils font. Ils font leur métier, ils le connaissent mieux que moi. Moi, je serais incapable de produire une émission télé. Je ne sais pas faire, c'est pas ma grammaire, c'est pas mon histoire, c'est pas ma culture. Je les laisse faire leur boulot. Et j'ai toujours considéré que les rencontres entre le web et la télévision marchent mal. Ça fonctionne mal. On n'a jamais réussi à trouver le truc qui fonctionne. Le truc où Internet et la télé se rencontrent de la bonne manière, que ce soit une chronique, une émission, un truc et tout, ça fonctionne pas. C'est parce que je considère que la rupture entre Internet et la télévision, c'est une rupture d'ordre anthropologique. C'est pas seulement éditorial, c'est pas qu'une question de ton, une question d'âge, une question de machin, c'est plus profond que ça. Internet, c'est une grammaire, c'est un rapport au public, c'est quelque chose de très horizontal, de très communautaire. Et si t'es comme moi, que t'as grandi avec cette culture YouTube, cette culture Reddit, cette culture beaucoup plus horizontale, tu t'es pas à l'aise à la télé et c'est normal. Et inversement, les gens de la télé sont rarement à l'aise sur Twitch, pour la même raison. C'est qu'ils ont cette tendance à la verticalité, à être beaucoup trop propre, beaucoup trop carré, etc. BFM TV avait essayé de lancer une chaîne Twitch, c'était fait avec beaucoup de bonne volonté par des jeunes journalistes de BFM TV, mais ça marchait pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. T'avais aucune sympathie pour eux, il y avait rien de charnel, il y avait rien de... T'avais pas envie d'être pote avec eux, ils faisaient leur boulot de journaliste, ils le faisaient d'ailleurs assez bien. Mais c'est pas ça le problème, en fait. Donc c'est mort dans l'œuf, en fait. C'était pendant le Covid, ouais. C'était pendant le Covid. Non, non, mais toutes les télés qui se sont essayées à Twitch se sont cassées la gueule. Hein. Toutes. France TV s'est cassé la gueule. France Info s'est cassé la gueule. BFM TV s'est cassé la gueule. Arte, ils y arrivent. Alors, Arte, ils y arrivent pour une raison simple. C'est que le choix stratégique d'Arte sur Twitch, c'est de ne pas faire du Arte. Et c'est d'aller chercher des visages de la plateforme pour travailler avec eux sur leur chaîne. Et ça, ça marche bien. Ça, ils ont compris ça. Ils ont bossé avec Pierre Lapin, avec Orti. Ils ont créé des émissions animées, mais pas que animées, dessinées, portées, investies par des gens qui ont déjà tous les codes de la plateforme en eux. Maudit aussi. Jour de Play, c'est vachement bien. Le Vortex, c'est surtout sur YouTube. Ils font des émissions de temps en temps, mais c'est surtout sur YouTube. Ils bossent avec l'âme, ils bossent... Enfin, voilà. Arte, ils ont compris ça. Il n'y a rien d'Arte sur la chaîne Twitch d'Arte. Et c'est ça qui marche. En réalité, si on en discute avec eux, en fait, c'est précisément ça l'identité d'Arte. C'est pour ça que c'est pas gentil de dire il n'y a rien d'Arte. En fait, au contraire, c'est toute Arte. D'aller chercher des jeunes talents de la plateforme pour les faire travailler sur la plateforme. Et ils ont raison. Et ça, ça fonctionne. Arte est avant-gardiste de base. Je dirais pas qu'Arte est avant-gardiste, mais Arte a une culture de l'expérimentation et de la différenciation. Arte a toujours été cette chaîne qui a ce complexe d'infériorité éternelle, mais qui du coup compense par l'exploration de domaines dont personne parle, dont personne ne fait rien. Et effectivement, c'est tout à leur honneur et c'est pour ça qu'Arte fonctionne. Mais tu vois, c'est une culture d'entreprise, c'est une culture de médias. L'éternel underdog, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc Arte, effectivement, c'est la seule chaîne télé à qui je reconnais un succès sur Twitch, relatif comme succès, hein, parce qu'ils ont réduit les budgets et tout, enfin bref, ça dépend des années. Et puis il y avait ce que moi je faisais avec Public Sénat à l'époque, où Public Sénat, je faisais une émission de Public Sénat sur ma chaîne, sur Twitch, tous les mercredis. Et c'était une émission dont une partie était ensuite diffusée à la télévision, sur la chaîne de Public Sénat. Et c'est la première et la seule fois, je crois, qu'un stream Twitch a été diffusé à la télévision. Mais c'était dans ce sens-là. C'était pas une émission télé diffusée sur Twitch. C'était une émission Twitch diffusée à la télé. Rediffusée en partie à la télé. Voilà. Et puisqu'on parle de télévision, effectivement, on l'a appris ce matin, les décisions de l'ARCOM sont tombées. Les décisions de l'ARCOM sont tombées. L'ARCOM, je vous rappelle, c'est l'autorité de régulation des médias audiovisuels, et c'est l'autorité qui attribue ou pas les fréquences TNT. Et en l'occurrence, on a appris que la chaîne C8 de Vincent Bolloré, la chaîne qui accueille Cyril Hanouna et son émission TPMP, allait perdre son créneau de diffusion. NRJ12 également. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi NRJ12. Peut-être parce qu'il y a des problèmes de solidité financière. C'est possible. J'en sais rien. Fréquence, ouais. Alors, on utilise encore le mot fréquence, même si c'est plus tout à fait... on parle plutôt de canal de diffusion, en réalité. Mais peu importe. Donc, C8 a perdu sa fréquence. NRJ12 aussi. C8, bah, ils étaient déjà dans le collimateur de l'ARCOM, puisque en quelques années, C8 avait écopé de plus de 7,5 millions d'euros d'amende parce qu'ils ne respectaient pas leurs engagements vis-à-vis de l'ARCOM. Donc l'ARCOM... Parce que je vous rappelle, le principe, c'est que l'ARCOM attribue un canal de diffusion, hein, une fréquence TNT, mais signe également une... C'est quoi le mot ? Un agrément, ouais, un agrément. C'est pas une charte, c'est un espèce de contrat, en fait. Hein. C'est un espèce de contrat dans lequel... une convention, voilà, une convention, merci. Une convention d'attribution. Et la convention, c'est un document, c'est un contrat assez long, hein, dans lequel il y a des obligations de part et d'autre, de l'ARCOM d'un côté, mais aussi de la chaîne qui signe la convention. Donc en échange du fait que l'ARCOM t'attribue un canal de diffusion, tu as des obligations. T'as pas le droit de diffuser de pornographie, par exemple. Tu vois, ce genre de truc, c'est con, mais il faut l'écrire quelque part, ça. Et donc voilà, donc c'est, beaucoup de choses sont écrites, et c'est dans le cadre de cette convention que des objectifs sont fixés à la chaîne, qu'il y a des obligations à suivre, des obligations qui peuvent être négociées ou pas, en termes de parité, en termes de représentativité, en termes de... Ça dépend de la chaîne, après, si c'est une chaîne de divertissement, une chaîne de dessin animé ou une chaîne d'info, ce sera pas la même convention, évidemment. Donc voilà. C8 a donc perdu sa fréquence, mais le groupe Bolloré va faire appel de la décision, ce qui est normal. Donc on verra, ça prendra encore un peu de temps. Il faut que les tribunaux se prononcent. Et de toutes les manières, Cyril Hanouna pourra très probablement trouver refuge sur une autre chaîne du groupe Bolloré, puisqu'il avait obtenu une émission quotidienne sur la radio Europe 1 pendant la campagne des législatives. Alors, on a appris que du coup, les deux canaux TNT de C8 et de NRJ12 vont être attribués à d'autres médias qui vont faire leur entrée sur la télévision. C'est notamment Ouest France, le journal Ouest France, le quotidien Ouest France, quotidien de tout l'Ouest de la France, qui aura sa chaîne de télévision. Alors, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais je trouve ça intéressant. Et on a aussi la chaîne de Kretinsky, je crois, dont j'ai oublié le nom, que je connais pas du tout pour le coup. Réel TV, ouais, Réel TV. Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas. C'est à Kentoven, d'accord. Le média, non, le média, ils ont raté. Le média, ils n'ont pas obtenu de canal TNT. Je pense qu'ils n'ont pas la solidité financière pour pouvoir y prétendre. Encore que ça peut s'argumenter. Ça me semble courageux de lancer une nouvelle chaîne TV en 2024. Bah, je suis d'accord avec toi, hein. C'est-à-dire que le modèle économique de la télé, surtout pour des petites chaînes TNT, c'est pas fou, hein. Mais on a bien vu d'ailleurs avec Bolloré que le but de Bolloré avec ses médias, c'est pas de gagner de l'argent. Il en a de l'argent. Son but, il est ailleurs. Ça coûte cher un spot TNT. Ça dépend ce que tu fais rentrer en ligne de compte dans le calcul de tout ça. Moi, je me souviens que la chaîne parlementaire, ça leur coûte 7 millions d'euros par an. D'infrastructures de diffusion. Moi, ma box, elle me coûte 30 euros par mois. Mais pour diffuser à la télé, c'est dans ces eaux-là. Toi, t'as le chiffre de 3 millions ? Peut-être, je sais pas. Qui demande autant de fric ? Les entreprises qui permettent de diffuser, parce que diffuser à la télévision, c'est autrement plus compliqué que diffuser sur Twitch. Hein. C'est des réseaux très particuliers, c'est des infrastructures réseau très, très lourdes. Il faut pouvoir émettre dans tous les territoires de la République, ça passe pas par la connexion Internet, hein. Ça passe par des connexions qui sont propres. Bah, je vous avais raconté quand j'avais acheté les droits de diffusion du débat d'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, j'étais rentré en négociation avec le groupe TF1 pour acheter pour payer les droits pour pouvoir diffuser sur Twitch le débat. Et TF1 m'avait dit OK, on te cède les droits pour tel prix, et ils m'ont dit on va te mettre en relation avec l'entreprise qui s'occupe de la mise à disposition du flux. En fait, les télévisions, quand elles prennent des images de quelque part, que ce soit un match de foot, que ce soit un camion GPS de BFM TV près d'une manifestation, etc., ils doivent recevoir dans leur régie de diffusion un flux. C'est une entrée. Et la mise à disposition de ce flux par une entreprise, c'est payant. Il y a des boîtes dont le métier est de connecter la régie de la télé à l'émetteur, quel qu'il soit. C'est tellement arriéré. Alors après, la mise à disposition est garantie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le flux est créé, à partir du moment où tu as mis une mire, que tu t'es calé, calibré en termes informatiques, etc., il ne va pas y avoir de problème. C'est ça aussi que tu payes. Tu payes aussi une garantie absolue que c'est sécurisé, que ça va fonctionner du début à la fin, qu'il ne va pas y avoir de saute, qu'il ne va pas y avoir de machin, etc. Et donc, il m'avait dit, on te met en relation avec l'entreprise machin. Et moi, je n'avais pas répondu à ça, je m'en foutais. J'avais préparé mon live et j'avais reçu un coup de téléphone sur mon portable d'un mec qui me dit « Bonjour, je suis le directeur technique de l'entreprise Truc. Je vous appelle au sujet de la mise à disposition du flux. J'ai eu votre numéro par TF1. Vous êtes le réalisateur de l'émission ou vous êtes le producteur ?» J'étais en pyjama chez moi. Je lui dis « Je suis streamer sur Twitch. » Là, il a bugué, parce que les deux mots veulent rien dire pour lui. Et il commence à m'expliquer qu'il doit me mettre à disposition le flux et qu'il faut qu'il se cale sur ma régie pour qu'on réussisse, qu'on ait les codes d'accès, machin. Et là, je commence à lui expliquer qu'en fait, c'est très gentil, mais moi, j'en ai pas besoin. Il me dit, comment ça, vous n'en avez pas besoin? Vous allez bien diffuser le débat d'entre-deux-tours? Je dis, oui, j'ai diffusé le débat d'entre-deux-tours. Il me dit, mais comment vous faites si on vous met pas à disposition le flux? Ah, mais je le prends, le flux. Comment ça, vous prenez le flux? Je lui dis, bah, ça s'appelle une capture d'écran sur Internet. C'est un clic droit. Clic droit, capturé. Ça coûte 0€. Et du coup, j'ai pas besoin de vous. Et le mec, vraiment, au téléphone, il buguait complètement. Il comprenait pas. Je lui parlais en japonais. Et il me disait, comment ça, vous avez pas besoin de nous, mais du coup, vous allez pas nous payer? Je dis, ben non. Je vais pas payer une mise à disposition d'un flux que je capture moi-même. Et le mec m'avait dit, je comprends pas. Et on en était resté là. Je comprends pas. Il m'avait dit, bah, rappelez-moi si vous avez... pour que je vous mette à disposition le flux, je suis disponible jusqu'à telle heure. Et j'avais reçu le mail, parce qu'il y a un mail technique interne qui circule entre toutes les télévisions qui reprennent le même flux, avec du jargon informatique que je comprends pas, où ils disent « mise à disposition flux MIR à 17h59 et 27 secondes, 4 secondes plus tard, test réel caméra numéro 1 était... » Vraiment, j'avais reçu le mail comme ça, c'était en copie avec 8000 personnes de la technique de plein d'entreprises. Et moi, j'étais en pyjama chez moi et j'étais en train de me rouler une clope. Hein. J'étais en mode, bah non, mais moi, mon stream, il va commencer, là, je suis bien. Hein. Non, ça va bien se passer, ouais. Ouais, très bien. Et du coup, j'ai évidemment jamais payé cette entreprise. J'ai payé TF1 parce que j'ai acheté les droits de diffusion. J'avais besoin de payer, mais... j'ai jamais payé. En plus, le mec me demandait plusieurs milliers d'euros, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. T'as dû payer combien à TF1 pour avoir les droits? Alors, je me souviens plus combien c'était à l'époque. C'était entre 1800 et 2500€ pour les droits de diffusion. Et sur le devis que j'ai signé, l'intitulé, c'est « Participation aux frais de production ». Je suis très frère. Je suis très fier, mesdames et messieurs, de participer à la production du débat d'entre-deux-tours entre les candidats à l'élection présidentielle. Je suis très heureux qu'un gamin de 35 ans en pyjama chez lui participe au financement de ce grand moment de la vie démocratique. Vous avez 10 500 sur un de tes best-of. Alors, je sais plus si ça comprenait justement le paiement de la mise à disposition du flux, et surtout, j'ai payé deux fois. Hein. J'ai payé deux fois. Il y a eu le débat d'entre-deux-tours 2017, le débat d'entre-deux-tours 2022. Le débat d'entre-deux-tours 2017, on l'avait fait en live avec Hugo Décrypte. En public. C'était trop bien. Pour ceux qui s'en souviennent, dans le 11e, là. Franchement, c'était cool. Là, on a fait... en 2022, j'ai payé le flux pour le débat d'entre-deux-tours et j'ai payé un autre truc. Je sais plus ce que c'était. J'avais fait un stream que j'avais dû payer. C'était pas 15 000€ si tu étais une chaîne de TV. Alors, si t'es une chaîne TV TNT, si, c'est 15 000 balles. Mais en fait, le tarif est dégressif. Moi j'étais apparenté à... J'étais apparenté à une télé locale, je crois. Ils avaient appelé ça Web TV locale. Sur la grille des tarifs, ils m'ont envoyé la grille des tarifs. Et effectivement, tout en bas de la grille des tarifs, le truc le plus petit, c'est Web TV local. Bon, ils ont estimé que j'étais une Web TV locale, ce qui m'arrange. Du coup, tu payais pour juste avoir le droit de diffuser, mais ils ont facturé ça combien ? Ils ont facturé ça en moyens techniques, ça n'a rien à voir. J'ai payé les droits et ils ont facturé ça en participation aux frais. Ouais. T'aurais payé jusqu'à combien ? Je te le dirai pas. Je peux pas dire publiquement ce genre de truc, parce que vous comprenez bien que si je me mets à dire publiquement ce genre de truc, je peux plus négocier derrière. Il faut me laisser des marges de négo. Pareil sur les partenariats backseat, je vous dirai jamais combien les partenaires payent. C'est pas une information publique. C'est normal. Les droits s'étendaient au-delà du direct. Ouais, les droits s'étendaient au-delà du direct, et j'avais bien dit à TF1, vous me strikez pas ma vidéo YouTube, on est d'accord. Pareil, ils avaient pas compris ce que je voulais dire. 3 jours plus tard, je me faisais striker ma vidéo YouTube. Atteinte aux droits d'auteur de TF1. Hop, 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 hop. Ils m'ont coûté plusieurs milliers d'euros, ces droits. Donc vous allez me les restituer tout de suite. Évidemment que c'était prévisible, mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors c'est... Non mais si je continue à vous raconter des anecdotes de ce genre-là, j'en ai tout le tour du bras. Ça fait bientôt 10 ans que je suis sur Twitch et que je fais des conneries et que je crée des émissions absurdes. En 2014... Non, plus tard, pardon. 2017... Ouais, en 2017, j'avais obtenu les droits de diffusion du défilé militaire du 14 juillet parce que j'avais un partenariat avec l'armée de terre. Et on avait fait un super stream trop bien avec un jeune capitaine du 18e régiment du génie parachutiste qui répondait à toutes les questions du chat sur l'armée et tout. Et donc j'avais les droits de diffusion, c'était prévu au contrat. L'armée m'avait donné les droits de diffusion du défilé. Et Canal+ les a strikés sur ma chaîne YouTube. Canal qui ne diffuse même pas le défilé. Mais comme Canal+ avait utilisé des extraits du défilé militaire dans un de ses journaux télé, je sais pas lequel, pour en parler, le robot YouTube de Canal+ avait cru qu'il était propriétaire de toutes les images du défilé. Et du coup, il m'avait strike. Mais cassez-vous, en fait. Allez vous faire foutre. Et attends, et le même truc m'était arrivé dans l'autre sens. J'avais les droits de diffusion de CNews sur un débat entre des candidats à la présidentielle, je crois, je sais plus. Et donc j'avais les droits de diffusion de CNews, je fais mon stream, et la vidéo YouTube est strikée par France Télé. France Télé revendique les droits sur une émission de Canal via un YouTuber. En disant non, t'as pas le droit de diffuser, c'est nos images. Mais cassez-vous. Mais vous êtes sérieux? T'as payé CNews? Non, j'ai pas payé. C'était une mise à disposition gracieuse. Une fois, je me suis fait striker un trailer de jeu vidéo parce que le trailer avait été diffusé par une émission de jeux vidéo à la télé en Équateur. Non, mais voilà. Non, mais ça, vraiment, c'est vie ma vie de YouTuber. Je suis désolé, c'est des sujets un peu techniques, etc. Parce qu'il faut vraiment être dans le milieu média, audiovisuel, internet pour voir les imbrications que ça a et le bordel que ça crée et les difficultés que ça crée aussi. Mais il y avait un documentaire qui avait été fait sur des arnaqueurs américains. Non, qui était pas américain. Si, qui était américain. Et qui avait inventé un système d'arnaque à grande échelle sur les strikes YouTube. Et les mecs gagnaient beaucoup d'argent. Je vous rappelle le principe d'un strike YouTube, c'est que quand un ayant droit détecte que votre vidéo YouTube contient des images ou des sons dont il est propriétaire, il peut la strike, c'est-à-dire soit il interdit sa diffusion, donc la vidéo disparaît de YouTube, vous pouvez faire appel après, etc., mais la vidéo disparaît, soit il peut laisser la vidéo sur YouTube, mais par contre, l'argent généré par cette vidéo revient à l'ayant droit, et non plus au YouTubeur. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des strikes abusifs. c'est que parfois tu diffuses un truc qui t'appartient à toi et tu te fais striker par une boîte hongkongaise qui revendique les droits, comme ça. Et c'est trop relou, en fait. Genre, c'est méga relou. Parce que du coup, tu dois expliquer à YouTube, non, non, je suis bien propriétaire des droits, c'est ma vidéo YouTube, c'est ma musique, c'est mon... Enfin, voilà, non, j'ai pas pris de musique, machin. Et les deux Américains dont je vous parlais, ils ont compris l'arnaque, ils ont compris le système, et ils se sont dit, mais attends, on va créer une maison de disques. Donc, ils ont créé une entreprise, maison de production sonore. Ils se sont enregistrés auprès de YouTube comme maison de disques, donc susceptibles de faire des strikes à grande échelle. Et ils ont déclaré comme catalogue, parce que le principe, c'est qu'un ayant droit déclare son catalogue. Voilà les musiques qui m'appartiennent. Donc Daft Punk, etc., machin, ça appartient à tel producteur. Et donc, eux, ils ont déclaré un catalogue de musique et ils sont allés chercher des musiques peu connues, mais partout sur YouTube. Donc notamment du jazz, des musiques du monde, des musiques africaines, des musiques sud-américaines, des trucs comme ça, des musiques électroniques un peu underground, etc. Bref, ils ont évité de déclarer qu'ils étaient propriétaires de trucs très célèbres. Ils sont allés taper que sur des petites musiques pas trop écoutées. Mais par contre, ils en ont déclaré des milliers. Et du coup, ils ont fait des strikes, non pas de suppression de vidéos, mais de redirection de flux financiers vers eux. Et ils se sont mis à gagner des centaines de milliers de dollars d'argent de petites chaînes YouTube, à chaque fois centime par centime. Des musiques de jazz, des musiques de trucs divers et variés, etc. Personne vérifiait ça, c'était des petits YouTubers, c'était des trucs comme ça. Et ils ont récolté énormément de pognon. Ils ont fait du libre de droit aussi. Oui, ils ont fait du libre de droit. Ils ont déclaré des catalogues de musique libre de droit comme leur appartenant. Comme ça. Et du coup, ils ont gagné plein de pognon pendant longtemps. Et ils ont fini par se faire prendre, etc. Mais l'arnaque a fonctionné pendant un bout de temps. Ouais. Déclarer sans pouvoir le prouver, c'est ridicule. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est toute la limite du système YouTube. Tu peux demander des dommages et intérêts pour des strikes abusifs. Que dalle. Zéro. Sylvequin, il a fait des vidéos sur eux. Ouais, Sylvequin avait raconté cette histoire. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube de Sylvequin, allez-y, elle est vraiment chouette. Il fait des très très bonnes enquêtes sur toutes ces histoires du numérique. Il en a fait sur les crypto-monnaies, sur les hackers, etc. Enfin, vachement bien. Et c'est vrai que je me souviens qu'il en avait parlé. Donc voilà comment tu te fais strike. Voilà comment tu te fais strike, bêtement. Parfois abusivement, pas toujours. Mais voilà comment est-ce que France Télévisions peut strike un streamer parce qu'il a diffusé des images de Canal+. Ah. Ah. Bonheur. Et donc tout ça pour dire que je préfère largement produire des émissions sur Internet que de travailler à la télévision et à la radio, dont je ne suis pas familier du contenu et dont je ne suis pas à l'aise avec la grammaire, l'écriture, le rythme. Pourquoi t'as pas payé les débats des législatives ou européennes 2024, pas l'envie ou trop cher ou autre? Les deux en même temps. J'avais plus de pognon. Hein. Après mon hospitalisation, j'ai tout perdu, donc je pouvais plus trop me permettre ce genre de folie. Au final, t'as récupéré les droits de tes vidéos? Je crois, ouais. Je crois même que France Télé, ils m'ont sorti de leur radar à strike, justement. Enfin, je devrais pas le dire parce que ils vont me remettre dedans. Mais ouais, bref, je sais pas comment on en est venu à parler de tout ça. Bah oui, c'est parce qu'on parlait des attributions de fréquences TNT. CNews, C8 et NRJ12 qui perdent leur canal de diffusion. Donc ouais, c'est un peu ça. On a fait le tour de l'actualité, on a parlé de Lucie Castet, on a parlé de l'interview de Macron, on a parlé de C8 et d'NRJ12. On parlait d'Hanouna qui dégage. Toujours pareil. Merci pour les 5 subs offerts au chat. Merci à la personne anonyme qui offre 5 subs au chat. Merci. Non, comme on le disait tout à l'heure, non, Cyril Hanouna n'a pas disparu. Voilà. Pareil. Arrêtez de jump to conclusion trop vite. Cyril Hanouna va très bien. Déjà, le groupe Bolloré va faire appel de la décision de l'ARCOM, donc c'est pas encore sûr que ce soit validé. Et ensuite... Cyril Hanouna pourra tout à fait trouver refuge sur une autre chaîne du groupe Bolloré. Pas de souci. Il diffusera sur Canal+ en clair. Ouais, voilà, il y a toujours Canal+, hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. TPMP va perdre de l'audience ? J'en sais rien, je sais pas. Ils ont déjà annoncé TPMP sur Canal+. Ah, c'est déjà annoncé en plus ! Ah bon, bah voilà. Et bah TPMP va gagner encore plus d'audience alors, avec Canal. Canal en clair, c'est quand même fort, non ? Je sais pas si c'est aussi fort qu'avant. J'en sais rien. Non, là encore une fois, on touche aux limites. Hein. Moi, j'y connais pas grand-chose. La télévision, ça fait longtemps que je regarde plus. Je sais pas quelles sont les audiences. Pour moi, Canal+ en clair, historiquement, c'est le grand journal. Donc, c'est quand même une grande émission du paysage audiovisuel. Le petit journal de Yann Barthès aussi à une époque. Enfin, voilà, c'est quand même une grosse audience Canal+. C'est pas Canal+ en clair. C'est quand même c'est un gros truc. Est-ce que c'est plus ou moins que C8 en prime time? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Macron a officiellement refusé Lucie Castet comme Premier ministre? Parce qu'il estime qu'elle n'a pas la majorité et qu'il faut construire une majorité avec les membres du Front Républicain. Pourquoi parler de Hanouna? Ah bah tu sais, tu peux quitter le stream, tu n'en es pas prisonnier, n'hésite pas. Il n'aura jamais sa majorité. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais autant c'est vrai de dire que personne n'a la majorité au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, autant c'est faux de dire qu'une majorité relative ne permet pas de gouverner. Elle permet de gouverner de manière inconfortable, mais elle permet de gouverner. Donc on verra. Quels groupes sont les plus susceptibles de s'unir à l'Assemblée nationale? Alors, t'as des alliances entre groupes qui ont été annoncées avant l'élection. Par exemple, le NFP est une alliance entre groupes. Il y a 4 groupes. La Macronie, c'est 3 groupes. Le groupe Ensemble, le groupe Modem et le groupe Horizon, qui forme le bloc macroniste. Ensuite, tu as la coalition entre le Rassemblement National et le groupe d'Éric Ciotti, qui s'appelle À Droite, qui est une autre alliance. Et ça, donc ça, c'était les alliances annoncées avant l'élection. Ensuite, il y a les alliances proposées ou suggérées après l'élection. Notamment, Laurent Wauquiez, président du groupe Les Républicains, a annoncé qu'il souhaitait un contrat de législature sans ralliement avec les macronistes. Et on a vu cette alliance opérer dès l'élection du président de l'Assemblée nationale, de la présidente, puisqu'elle a été élue par une majorité relative composée des macronistes et des LR. Alors, une majorité relative pour élire une présidente de l'Assemblée, ça ne suffit pas à faire une majorité relative pour gouverner. Mais c'est un premier pas. De leur côté, les membres du Nouveau Front Populaire disent pas tous la même chose. Ils refusent tous une alliance avec les macronistes. Ils refusent le principe d'une coalition gouvernementale. Ils ne veulent pas une coalition gouvernementale. En revanche, il y a une partie du NFP qui dit « on va bien être obligé d'accepter les amendements ou de les négocier ». Donc d'une manière ou d'une autre, il y aura une négo à un moment. Si on est au gouvernement. Les insoumis, eux, refusent ça aussi. Pas de compromission, pas de compromis, pas de négociation du programme, etc. Bon, entre ce qu'on dit avant la négo et ce qu'on fait de facto, il y a toujours une différence. Je vous rappelle, pour mémoire, que la France insoumise a déjà fait un compromis avec les macronistes. C'était la proposition de loi constitutionnelle pour garantir le droit à l'IVG. Mathilde Panot a transigé sur sa loi. Elle a accepté un compromis de manière à garantir le vote des 3/5 du Congrès. Donc, il ne faut pas dire que les insoumis sont incapables de négocier, c'est pas vrai, ils l'ont déjà fait. Les insoumis ont négocié un programme avec les socialistes qui a donné le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire est un compromis entre les communistes, les socialistes, les insoumis et les écologistes. Ils ont trouvé un compromis sur l'identité de la Première ministre. Absolument. La Première ministre proposait la candidate putative. Lucie Castet n'est pas une insoumise. Et les insoumis ont accepté. Donc, voilà quelques exemples qui montrent que les insoumis, même s'ils répètent à longueur de micro qu'ils ne transigeront pas, qu'ils appliqueront tout le programme, rien que le programme, etc., on sait qu'ils sont capables de transiger, de négocier lorsque l'intérêt supérieur est garanti. On verra comment ça se passera dans l'hémicycle. C'est vrai qu'il y a 2 semaines, on les voyait mal proposer qui que ce soit qui ne soit pas de chez eux. Oui, oui, il y a 2 semaines, ils disaient ça, mais c'est normal. C'est ce que je vous répète toujours, c'est normal d'afficher des positions fermes avant la négo. On ne rentre pas en négociation en disant « je vais transiger sur mon programme ». Non. On commence la négo en étant ferme et ensuite on discute. Tu commences la négo en criant « on a gagné ». Oui, c'est ça. Tu commences la négo en disant à tout le monde « j'ai gagné les élections, je dois gouverner ». Et après, on discute. Mais je rigole pas, c'est normal de faire ça. C'est cohérent. Au demeurant, le RN aurait fait pareil. Pareil. Si Bardella avait été Premier ministre avec une majorité relative, il aurait commencé par dire « je vais appliquer tout mon programme ». Glucksmann a fait la même. Mais Glucksmann a fait la même. Glucksmann a parfaitement raison. C'est normal. Quand il dit « il faut un cap clair, machin, je suis majoritaire à gauche, voilà mes conditions », il est dans son rôle. Il est dans le rôle d'un mec qui vient d'obtenir une avance à gauche sur ses partenaires, etc. Macron a fait la même. Macron a fait la même, évidemment. Macron, il commence par dire « personne n'a gagné ». Il rentre en égo en disant « personne n'a gagné ». Bref. Tout ça, ce sont des négociations habituelles dans un régime parlementaire. Vous et moi n'y sommes pas habitués. Force est de constater qu'on vit dans un pays, la France, et pas n'importe laquelle, non. On vit dans un pays qui a un régime politique, celui de la Ve République, qui ne nous a pas habitués à ça. On a tous été habitués à un président fort et légitime qui peut s'asseoir sur une majorité forte et cohérente. C'est comme ça qu'on vit en 5ème République habituellement. Et c'est normal. Le président a une majorité, il dirige, etc. Et quand il perd sa majorité, on a un Premier ministre qui a une majorité forte. Il a une majorité forte. Et donc il gouverne, on sait où il va, etc. Machin. Là, on rentre dans une période où il y a 11 groupes à l'Assemblée nationale. Personne n'a la majorité absolue. On est en train, nous Français, de découvrir ce que c'est qu'une république parlementaire classique. République parlementaire, régime parlementaire, pardon. Donc régime de coalition, régime de négociation, régime de discussion, etc. Et d'incertitude. Qui est proposé, je vous le rappelle, par la gauche dans tous ses programmes depuis des années. Donc moi, quand on me dit la 5ème République est morte, il faut vite passer à la 6ème République de la France Insoumise, je dis mais attendez, la 6ème République de la France Insoumise, si j'ai bien lu, il propose une proportionnelle. Hein. Il propose exactement ce qu'on a aujourd'hui. Une Assemblée nationale ingouvernable avec personne à la majorité absolue. C'est ça, une République parlementaire. Moi, ça me va, hein. Moi, ça me convient. J'ai toujours été un grand parlementari, je suis pour la proportionnelle, etc. Pas de souci. Mais ce qu'on a là aujourd'hui, modulo la présidence de la République, qui est quand même une exception chelou de la 5ème, ce qu'on voit au Parlement aujourd'hui, bah, c'est très de gauche. Hein. c'est très ce que la gauche défend depuis des années. Et la constituante résout rien. Oui, la constituante, moi je suis absolument favorable à une assemblée constituante, mais une constituante, ça travaille pendant longtemps, hein. Ça prend 2 ans, 3 ans, enfin c'est long, hein. C'est un processus de rédaction de constitution, c'est long, donc c'est pas du tout une solution au problème qu'on a aujourd'hui. Et par ailleurs, les gens qui souhaitent une constituante aujourd'hui seront les mêmes qui dans 3 ans soutiendront un régime parlementaire issu d'une constituante avec un scrutin proportionnel. On va dire, bah vous êtes marrants les gars, mais en fait, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on a là aujourd'hui. Donc, ça n'aboutit pas toujours comme au Chili. Au Chili, par exemple, ils n'ont pas réussi. En Italie aussi, je te rappelle. C'était Matteo Renzi, non, c'était avant. Je sais plus. Qui avait échoué à faire abdoter sa réforme constitutionnelle. Donc bon, en Islande aussi, ouais, ils ont échoué. Donc bon, la constituante, ça garantit même pas qu'on ait une 6ème République, hein. Ça garantit qu'on va avoir un travail pour. C'est déjà bien. Moi, je suis pour. Est-ce que ça ressemble pas un peu à la 4ème ? Bah, la différence avec la 4ème République, c'est qu'on a un président de la République. Elle est là, la différence. Et qu'il a du pouvoir, de facto. Même quand il est minoritaire à l'Assemblée. C'est quoi une constituante ? Une constituante, c'est une assemblée qui est élue pour une seule chose, élaborer une constitution. D'où son nom, la constituante. Pas la voter, hein, l'élaborer. Ensuite, elle sera votée. Si d'aventure la constituante propose effectivement un texte, il sera soumis soit au référendum, soit au congrès. Plutôt au référendum, on le suppose. Sauf que dans un régime parlementaire classique, les partis minoritaires font certes coalition avec les partis vainqueurs, mais en tentant d'obtenir des concessions pour leur programme. Mais en tentant d'imposer le leur contre celui des partis vainqueurs, pas ce qu'il se passe actuellement, où le parti défait considère que les électeurs les ont élus pour eux et pas pour faire barrage au RN. Non mais ce que tu dis est vrai, mais encore une fois, là on est à la phase pré-négociation en fait. Donc c'est encore une fois normal que chaque parti soit raide sur ses positions. Au demeurant, les députés ont raison de s'estimer élus, donc légitimes. T'arrives pas à l'Assemblée en disant « Alors j'ai été élu, mais en fait j'ai été un peu élu pour faire barrage à un autre parti qui n'est pas le mien, en même temps, machin. » Non, tu fais pas ça. Évidemment que tes députés, t'es parfaitement légitime. Évidemment que les députés insoumis ont été élus en partie grâce à des voix de macronistes. Ah oui, ils s'étaient désistés. Pas partout, mais ils s'étaient désistés dans beaucoup de circos. Bon bah évidemment, là t'entends pas tous les insoumis chanter sur tous les toits, heureusement que les macronistes ont voté pour moi, super. Bah non, évidemment, tu dis pas ça. Et vice-versa, bien sûr, et vice-versa aussi. Non mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais en même temps. Les macronistes ont été élus avec des voix de gauche. Dans ce cas-là, on arrête et on passe à la proportionnelle. Bah moi je suis pour, mais explique-moi quelle sera la différence avec ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une démocratie dans le monde où on se dit « Ok, tout ça fonctionne incroyablement bien ». Non. La démocratie est imparfaite par nature et par essence. La démocratie postule sa propre limite. C'est le seul régime politique qui s'interroge sur lui-même. La monarchie, elle ne s'interroge pas sur la valeur du monarque. Hein. Le monarque, il a été désigné par Dieu. Point barre, on ne discute pas. Tu fermes ta gueule et t'obéis. C'est ça une monarchie. Une dictature, c'est pareil. Le dictateur, il ne discute pas sa dictature. Il n'y a pas d'espace de discussion dans une dictature, même le principe. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de machin, etc. La démocratie, elle postule sa propre limite. Ses contradictions, etc. LFI, c'est une monarchie alors ? Ah bah non, LFI, c'est pas une monarchie. Si c'était une monarchie, tu te ferais virer du parti. Si tu critiques le roi. La démocratie, c'est trop instable, il faut plus d'autoritarisme, si tu veux. Si tu veux. M'excuserez, il faut que je fasse une pause. Je reviens tout de suite. Il est quelle heure ? 16h ? Oh, je me refais pas de café, non. Je vais faire une pause, je reviens. Enfin, en gros, je vais aux chiottes, vous avez compris, quoi. Sloubi 25. Tchoum, 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 tchoum. Attends, je voulais checker quoi ? C'est pas ça que je voulais checker. Bref. Ah, tu t'es lavé les mains ? Ouais. Je viens de me laver les mains. Checker Zara. Elle est où ? Elle est pas là. Le NFP est la plus grande majo. Depuis les législatives, est-ce que Macron peut vraiment laisser un gouvernement démissionnaire jusqu'à nommer un PM d'une autre alliance ? Le NFP a-t-il vraiment la plus grande majo ? Selon comment tu regardes, on peut en discuter. Il se trouve qu'ils n'ont pas réussi à faire élire un président de l'Assemblée nationale à la majorité relative. Alors tu me diras, c'était qu'une élection, celle du président, c'était pas un contrat de gouvernement, machin. Mais tu vois, le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est le RN. C'est vrai. Mais si on compte en coalition, c'est-à-dire en groupes qui sont ensemble, dans une coalition, alors c'est le nouveau Front Populaire qui a une coalition. Sauf si on considère que l'alliance entre LR et les macronistes est une coalition. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais ce qui pourrait le devenir. Auquel cas, ce serait eux qui auraient la majorité relative. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus subtil que ça. Ça dépend de comment on regarde les choses. C'est quoi la définition d'une coalition ? Très bonne question. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas défini dans notre constitution, dans le règlement de l'Assemblée nationale, etc. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse à faire. Créer un statut de la coalition. Ça veut dire quoi, se coaliser ? LR a vraiment pas l'air de vouloir faire alliance. En l'état actuel des choses, ce que l'on sait, c'est que LR souhaite un contrat de législature avec les macronistes. Mais contrat de législature, c'est pas très précis. Ça veut dire se mettre d'accord sur quelques lois. Mais ils ne veulent pas faire de coalition, effectivement, tu as raison. Sous-entendu, ils ne veulent pas participer à un gouvernement avec les macronistes. Ils veulent rester dans l'opposition en tentant d'obtenir un maximum de concessions. Ça a un statut, la coalition, genre t'es obligé de rester ensemble pour toute la législature. Non. Ah non, bah non, certainement pas. On a déjà vu des gens qui ont quitté des coalitions en cours de mandat. Hein. Les macronistes qui avaient créé un groupe écolo en quittant le groupe macroniste, le groupe En Marche, c'était exactement ça. Est-ce qu'il y a des pays où les coalitions ont des statuts ? Honnêtement, je sais pas. La coalition gouvernementale, oui, sans doute, mais les autres, je sais pas. La définition de la légitimité des urnes en termes de députés élus ou de votes exprimés ? Ah non, en termes de députés élus. Ce qui compte, c'est les personnes qui sont élues. Wauquiez, Premier ministre en septembre. Non, je pense pas. En même temps, je réfléchis, hein, mais je me dis que Macron pourrait considérer que le barycentre de l'Assemblée est à droite, ce qui est pas faux, et que donc il conviendrait de nommer un Premier ministre de droite. Le plus à même de trouver des coalitions de projets entre le RN et les macronistes, quoi. Bon courage. Pourquoi le RN n'a pas cherché à avoir des postes de vice-président et de commission ? Ah mais qui t'a dit qu'il n'avait pas essayé ? Au contraire ! Le RN a tout fait pour avoir des postes de vice-président et des présidences de commission. Ils ont tout fait. Mais ils ne pouvaient rien. Ils ont même été jusqu'à voter pour des insoumis, pour les aider à avoir des postes, en se disant qu'en échange, ils pourraient obtenir des votes pour eux aussi avoir des postes. Et ils n'ont pas réussi parce que les élections se sont faites au scrutin proportionnel. Non, au scrutin à la majorité relative. Je suis fatigué. Hein. Comme se coucher à minuit en ne votant pas pour leur candidat. Ouais, j'ai vu, ils se sont barrés de l'hémicycle un peu trop tôt. Du coup, ils ont perdu une élection juste parce qu'ils n'étaient pas là. Le RN et Ensemble se sont mis d'accord à la commission des lois. Pour élire qui ? Ils ont élu qui le RN et Ensemble. Ils ont élu un Ensemble, non? Auquel cas... Ah, il y a une un vice-président RN de la commission des lois. Oh, vice-président de commission, on va pas se mentir, ça sert à rien. Tu peux nous expliquer c'est quoi le scrutin proportionnel? Le scrutin proportionnel, c'est un scrutin où on répartit les sièges à la proportion des voix. Voilà. Plus t'as de voix, plus t'as de sièges. Est-ce qu'un gouvernement démissionnaire a une limite fixée de temps dans la Constitution? Non, 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 il n'y a pas de limite de temps. On peut garder un gouvernement démissionnaire extrêmement longtemps. Comme les européennes. Absolument. Les européennes sont des élections à scrutin proportionnel. Les régionales aussi. Alors les régionales, c'est encore plus bourrin que ça, parce que les régionales, t'as une prime majoritaire. C'est-à-dire que la liste arrivée en tête au second tour remporte automatiquement 50% des sièges du conseil régional. C'est un peu bourrin comme règle, mais ça marche. Les municipales aussi, ouais. Les municipales aussi, c'est des scrutins proportionnels, absolument. Sauf dans les toutes petites mairies, où là, c'est un scrutin uninominal, enfin bref. Non, c'est 25% des sièges, Jean, j'ai vérifié. Ah bah, ça a été réformé, alors. C'est 25% des sièges ? Ok, 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 c'est 25. Scrutin de liste proportionnelle avec prime majoritaire à deux tours. Scénario 1. Si dès le premier tour, une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle obtient un quart des sièges à pourvoir, donc c'est bien 25%. Les autres sièges, eux, sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle la plus forte moyenne, oui. C'est-à-dire à tous les listes qui ont obtenu au moins de 5% des suffrages exprimés, donc ça c'est comme aux européennes. Scénario 2. Si au premier tour, aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un second tour est organisé, et seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir, ok. Les règles de répartition des sièges sont alors les mêmes qu'au premier tour, à la différence que la majorité absolue n'est plus requise. Ouais. Ainsi, la liste arrivée en tête reçoit le plus grand nombre de sièges qu'elle ajoute à ceux obtenus grâce à la prime majoritaire. Elle est par consequent quasiment assurée de détenir la majorité au conseil régional. Ouais, c'est ça. Donc c'est 25%, merci. C'est bien 25%. Ouais, ouais. Prime majoritaire à 25%. Donc ça, typiquement, c'est un truc intéressant. Quand on réfléchit au scrutin, on peut décider d'offrir une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête. Le but de cette règle, ça sert à quoi ? Ça sert à garantir qu'il y aura une majorité forte pour gouverner. C'est à ça que ça sert. Le problème de la proportionnelle intégrale, le problème d'une élection proportionnelle comme ça, c'est que tu te retrouves avec un morcellement de l'Assemblée nationale, un peu ce qu'on a aujourd'hui, même si c'est pas un scrutin proportionnel, où il n'y a pas de majorité forte. Donc ça crée de l'instabilité politique. Donc on peut décider que pour éviter ce genre de scénario, on crée un système où la liste arrivée en tête gagne une prime parce qu'elle est arrivée en tête, et elle a donc d'autant plus d'élus dans l'hémicycle. Ça garantit des majorités stables. Voilà, c'est à ça que ça sert. Au lieu de la proportionnelle, le scrutin majoritaire permettrait plus de stabilité. Alors ce que tu dis a été vrai pendant 70 ans, mais est totalement faux depuis 20 jours. C'est dommage. Ouais, depuis 2022, d'un certain point de vue, ouais, 2022. Mais en même temps, ouais, attendez, vous dites 2022, mais je suis désolé, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, ils ont pu gouverner. On va pas me dire qu'ils n'avaient pas le pouvoir. On va pas me dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont fait voter des lois. Ils ont fait voter des réformes. Ils ont fait adopter des budgets. Donc, alors certes, c'était pas hyper confortable, mais ils y arrivaient quand même. Parfois, ils ont eu chaud. Mais ils y arrivaient quand même. Un coup de 49-3. Mais justement, le 49-3, ça sert à ça. Le 49-3, ça sert précisément à ça. Le 49-3 n'est pas un outil de passage en force gratos. Je le dis, je le redis et je le répète, le 49-3 vous expose à une motion de censure. Et parfois, le boulet passe assez près de votre tête. Elisabeth Borne, elle a connu ça. Donc, le 49-3, c'est un test de majorité. Absolument. C'est très juste ce que tu dis. Le 49-3 est un test de majorité. C'est ce qu'on appelle l'onction de censure. J'aime beaucoup. Est-ce que tu peux être censuré si tu as une majorité absolue ? Bah, réfléchis. Tu as une majorité absolue. Donc, par définition, tes opposants sont minoritaires. Pour que tes opposants te renversent, donc te censurent, il faut qu'ils trouvent un moyen d'avoir une majorité. Comment ils peuvent faire ça ? En essayant de convaincre certains des membres de ta majorité de voter contre toi ? Peu de chance. Peut-être un ou deux. Des frondeurs, ouais, mais enfin bon, les frondeurs, je vous rappelle quand même que les frondeurs du PS, ils votaient contre certaines lois, mais ils ont voté aucune motion de censure. Ils ont même pas osé quitter le groupe, les frondeurs du PS. Alors que les frondeurs de la Macronie, eux, ils l'ont fait. Ils ont quitté le groupe. Donc bon, compliqué. Frondeur LREM, Sacha Houlier. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il y a Sacha Houlier qui est tout seul. Il l'a dit lui-même, il n'a pas de majorité. Enfin, il n'arrivera jamais à constituer un groupe, pardon. Il faut un Watergate pour ça. Oui, voilà, il faut un Watergate ou une décision comme celle de De Gaulle en 62. Alors, il faut des circonstances exceptionnelles pour que, d'un seul coup, l'opposition devienne majoritaire. Est-ce qu'il existe des garde-fous en cas de majorité absolue, mais cette dernière devenant dangereuse ou nuisible pour l'intérêt de la nation ? Et qui c'est qui détermine l'intérêt de la nation ? Et pour te répondre, il existe toujours le Conseil constitutionnel qui vérifie la constitutionnalité des lois. Et notamment le respect des droits de l'homme. Qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Ou la révolution. Oui, la révolution, ouais. Je suis inscrit sur l'event Facebook. Le président aussi, d'une certaine manière. Alors, en principe, oui, le président est censé être le garant de la Constitution, du respect des institutions, etc. Donc oui, c'est vrai. T'as raison. Si demain Macron décide de s'aligner avec Poutine, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose ? Le Parlement peut refuser de voter les budgets ? Le président de la République, il dirige les armées d'un point de vue opérationnel, mais et encore, l'engagement des troupes françaises nécessite un accord du Parlement après 15 jours. Donc le Parlement a un droit de regard, quand même. Il peut se faire destituer. Le président de la République peut se faire destituer, mais c'est dans des conditions précises, la destitution. Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un manquement manifeste à la fonction de président de la République. Et ça veut pas dire... il fait une politique avec laquelle je suis pas d'accord. Non, ça c'est pas un manquement, ça. C'est normal. Ça s'appelle être dans l'opposition. Ouais, c'est ça, la haute trahison, ouais. Intelligence avec l'ennemi, il faut imaginer ce genre de truc-là. S'il nomme personne. Oui. Par exemple, un président de la République qui ne nommerait personne alors qu'il a un pouvoir de nomination, le Parlement pourrait considérer que le président manque à ses devoirs et que donc il convient de le destituer. S'il démissionne pas avant. C'est ce qui s'était passé hein, pour Richard Nixon aux États-Unis. Il avait démissionné avant la commission d'enquête. Hein. Il a voulu éviter l'humiliation. Ça veut pas dire fuguer de l'Elysée en scooter. Ah non! Le président de la République a le droit d'aller dormir dans un lit dans lequel il se trouve qu'il y a quelqu'un, voilà. C'est pas un manquement à sa fonction. Quelqu'un de consentant. Bien entendu, quelqu'un de consentant. Président de la République qui commettrait un viol. Ce serait chaud. C'est quoi le scandale du Watergate ? Bon, pour la faire très très courte, le gouvernement américain, le président Nixon, avait placé des micros et avait mis sur écoute le parti politique d'opposition, le Parti démocrate. Et ça avait été découvert, ce qui avait fait scandale. Voilà. C'est la version très courte, c'est la version longue t'intéresse, il y a des films qui ont été faits, il y a des bouquins qui ont été écrits, il y a des vidéos YouTube longues comme le bras. Le film Les Hommes du Président, ouais, Les Hommes du Président, très connu. Pourquoi t'as pas un joli micro comme pour les navions ? Parce que je suis sur mon setup Flight Simulator, il est à côté là. Ça, c'est mon bureau de stream normal pour les adultes. Enfin, je veux dire, la République, tout ça. Et là, c'est mon setup de stream navion pour les enfants. D'ailleurs, je vous rappelle que ce soir, alors je sais pas encore à quelle heure, on verra. D'ailleurs, il y a Vincent qui m'a envoyé un message. Ouais, ça devrait aller. Bon, ce soir, je sais pas encore quand, vous verrez bien, je fais un stream Flight Simulator avec Vincent de la chaîne Stardust. Si vous connaissez pas, c'est une chaîne qui parle d'aéronautique et de spatial sur YouTube. Et avec Vincent, on va faire un vol en planeur, je sais pas encore où, dans les Alpes. On verra en fonction de la météo. On décidera de notre route et on décidera tout ça en fonction de l'aérologie. Et voilà quoi. Voilà. Dans les Alpes, en l'honneur des JO 2030, bien sûr. Bien sûr. Tu as toujours ton chat ? Oui, j'ai toujours mon chat. Elle devrait normalement quitter mon foyer. Alors ça traîne un peu en longueur, mais là en même temps c'est les vacances, donc ça perturbe un peu l'agenda de tout le monde. Mais on lui avait trouvé une autre famille d'accueil, mais finalement ils peuvent pas. Du coup, on est en train d'en trouver une autre. Oh, l'eau pour Tisha. Tu penses que Cassé va se qualifier au LEC Finals, puis au Worlds ? Oui. Ça c'est écrit, ça. La qualification de la K-Corp, c'est prévu dans la Constitution. Enfin, je sais plus quel article, mais oui. Petit résumé de Lucie Castet possible. Non, regarde la rediff. On en a parlé pendant tout le début du stream. Pourquoi tu le gardes pas ? Malheureusement, mon petit chat n'a jamais vraiment réussi à se faire à ma présence. C'est un petit chat qui est arrivé chez moi il y a plus d'un an maintenant et qui a la particularité d'être terriblement craintive au point où elle ne peut pas être dans la même pièce que moi. Elle fuit en courant dès que je me lève et je ne l'ai jamais touché physiquement. Je n'ai jamais touché ce chat en plus d'un an parce que je ne peux pas l'approcher. Elle vit la plupart du temps sous un meuble de la cuisine. Et elle n'a jamais réussi à se détendre, à prendre confiance. Et le problème, c'est que comme moi, je suis un travailleur à domicile, là, c'est un peu compliqué pour elle de vivre avec moi. On va pas se mentir. Un chat qui a aussi peur que ça de moi, c'est quand même compliqué de... Si à la limite, j'avais des horaires de bureau, tu vois, bon, on pourrait se dire ça va, elle vit sa vie la journée. Et le soir, quand je rentre, elle disparaît, mais... Est-ce que tu vas essayer de trouver un autre chat ? Je sais pas. Je prendrai une décision plus tard. J'imagine que t'as tout essayé. Ah oui, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. On a essayé les herbes à chat, on a essayé les médocs, on a essayé les diffuseurs d'hormones, on a essayé... Moi, j'ai tout essayé. Hein. D'aller vers elle. Au contraire, de pas du tout aller vers elle. Mais ça, y a rien qui marche, quoi. Elle avait quel âge quand tu l'as récupérée ? Elle avait 6 ans. Donc là, elle en a 7. S'il y a parmi vous des gens en Ile-de-France qui veulent être famille d'accueil, mais par contre, attention, hein, moi je cherche une famille d'accueil qui sait y faire avec les chats craintifs. C'est pas un chat facile. T'as un chat craintif, ça demande du savoir-faire. Moi, je n'ai pas de savoir-faire. De toute évidence, je sais pas faire. Elle a été maltraitée. C'était quoi son passif ? Alors non, elle a, à ma connaissance, pas été maltraitée. À ma connaissance, elle a vécu en semi-liberté pendant la plupart de sa vie sur un corps de ferme. Il y avait un fermier qui donnait à bouffer à une bande de chats qui vivaient à l'extérieur toute la journée. Mais donc lui, il n'avait pas de contact avec les chats. Il leur filait juste des croquettes dans des gamelles à l'extérieur, quoi. Et malheureusement, le fermier a été admis en EHPAD. C'était un vieux monsieur. Et dans la foulée de son admission en EHPAD, la décision a été prise de détruire le corps de ferme sur lequel il vivait. Et avant que les travaux de destruction commencent, une association est intervenue pour prélever les chats, les soigner, les identifier, tout ça, enfin bref, faire le travail que font les assos dans ce genre de cas. Et c'est comme ça que cette petite Zara a été capturée. Et malheureusement, elle a découvert les humains, pas de la manière la plus rigolote, parce qu'elle s'est retrouvée directement chez un vétérinaire, anesthésié, pour se faire opérer, puis en convalescence dans une cage, puis dans une cage dans une association, puis dans une première famille d'accueil, enfin bref. Disons que sa découverte des humains n'a pas été le moment le plus fun de sa vie. Et aujourd'hui, elle ne peut plus, de ce que j'ai compris, elle ne peut plus vivre à l'extérieur, elle ne peut plus aller à l'extérieur parce qu'elle est malade et qu'elle risque d'être contaminée ou de contaminer d'autres chats. Donc c'est un chat d'appartement forcé. Ça t'a rendu triste de ne pas pouvoir la toucher ? Bah oui. Oui, le petit chat. Moi, je voulais un petit chat... Elle est fiv, ouais, elle est fiv. Ouais, elle est fiv. Moi, je voulais un petit chat... normal. Enfin, je veux dire, fonctionnel. Un chat qui te fait chier, qui t'empêche de dormir, quoi. Un chat qui est pot de colle au moment où t'as pas envie qu'il soit pot de colle. Et qui te fait la gueule au moment où toi, t'as envie de jouer avec, tu vois. Un chat normal, quoi. Un chat qui perturbe les streams. Ah ouais, un chat qui vient monter sur le bureau pendant que je parle. Un chat que t'es obligé de pousser de la jambe dans ton lit en disant « Mais casse-toi, putain !» C'est quoi FIV ? Le FIV, c'est le VIH pour les chats. HIV. Le H de HIV, ça veut dire humain. HIV. Le F de FIV, ça veut dire félin. FIV. Voilà, c'est le même virus, c'est le sida des chats. C'est le VIH des chats. Et c'est le même virus, hein, c'est exactement la... Enfin, c'est le même virus, c'est le même mode de fonctionnement. Il ne peut pas se transmettre de l'humain au chat et du chat à l'humain. Mais entre chats, malheureusement, c'est exactement comme le sida entre les humains. Et donc, comme elle est FIV, elle est porteuse du virus, mais elle n'a pas encore déclenché la maladie. Le principe de séropositivité, voilà. C'est quoi les symptômes ? Aucun. Aucun. Porteur sain, ouais, c'est ça. Porteur sain. Donc elle a aucun symptôme, hein. C'est un chat normal qui est porteuse du virus, qui veut dire qu'elle peut le transmettre à d'autres chats par les relations sexuelles et les griffures profondes Genre, faut vraiment qu'elle aille chercher le sang, quoi. Peu de chance d'arriver, mais ça peut toujours arriver. Et donc, comme elle est porteuse saine, ça veut dire qu'elle n'a pas déclenché la maladie. Donc, pour l'instant, elle vit normalement. Mais par contre, le véto m'a dit, vous savez, le jour où les chats ils déclenchent la maladie, ça va très vite. Hein. On peut, y a pas de, on peut pas soigner, il y a pas de, non, ça. Quelques jours, c'est plié. Zéro chance de contaminer l'homme en la griffant, par exemple. Non, 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 non. Il n'y a pas de compatibilité du virus entre le sang du chat et le sang de l'homme. De ce que j'ai compris, il n'y a pas de... pas de risque. C'est horrible, c'est comme une épée de Damoclès. Malheureusement. Pour les humains comme pour les chats, c'est une terrible maladie, ouais. On peut très bien vivre avec, tant qu'on ne déclare pas la maladie, ouais. Bon les copains, il est 16h41, je vous propose de vous envoyer en raid chez Clément Viktorovitch, évidemment, Maître Klemovic, qui est en train de parler de politique, tout ça, mais moi je lui ai dit ça marchera jamais sur Twitch ton truc. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'était chouette, je vous rappelle que ce soir je fais un stream Flight Simulator avec Stardust, Vincent de la chaîne Stardust, on va faire du planeur dans les Alpes, soyez là, vous allez voir, c'est génial. Merci beaucoup et n'hésitez pas à demander à Klemovic une constituante. Je pense qu'il n'en fait pas assez la promotion. C'est mon avis. Voilà. Des bisous les copains, à plus.